dans le tempo. Vous êtes dans le podcast des passionnés de musique, épisode 44. C'est parti. Bienvenue dans DLT.
On se quitte plus, Alman.
On se quitte plus. Non, mais c'est censé être 15 jours après, tu sais, cette publication. Les gens ne savent pas encore.
Okay. Ah, ça fait plaisir de te retrouver après tout ce temps. Bah ouais. C'est comme si c'était hier.
On a enregistré l'épisode précédent hier, effectivement.
Voilà, c'est ça.
Mais il s'est passé plein de choses depuis hier, Dan.
Oui, bah énormément de choses.
Qu'est-ce qu'il y a pendant ces 15 jours?
Les fusées explosent. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le président se fait houspiller.
Ça, c'est classique.
Classique, elle le mérite. Pas de politique dans ce podcast, bien sûr.
Ah, moi, j'ai une nouvelle.
Ah.
J'ai une nouvelle, tu sais, dans le dernier épisode, on a un peu dit que nos amis de Click, de Canal+, ils n'avaient pas été ultra cool en utilisant nos images.
Sans nous créditer.
Eh bien, figure-toi qu'on en a discuté avec eux, qu'ils ont fermé à culpa, qu'il y a eu un peu incompréhension en interne, mais ils ont été très gentils derrière, et ils veulent nous arranger, etc.
Donc pas de sentiments durs.
Non, pas
très
du
bien,
tout.
Très bien, très bien. Ça tombe bien parce qu'on les aime bien chez Click.
Absolument, on apprécie.
Merci, mais créditez-nous quand même.
Daz, de quoi on va parler aujourd'hui?
Aujourd'hui, on va parler de journalisme musical.
D'accord.
Parce que c'est vrai qu'on a fait quand même plein de trucs avec plein de gens, mais on n'a jamais parlé du journalisme musical, les gens qui prennent des chèques pour avoir des chroniques.
C'est vrai que l'argent est le moteur principal du journaliste.
Bien sûr, évidemment. On t'apprend ça en école de journalisme. D'ailleurs,
absolument.
Tout pour l'oseille.
Exactement.
Bien sûr, bien sûr. Non, on reçoit du coup deux briscards de l'information musicale.
Ouais. Pas encore.
Vous l'acceptez ou pas?
Quand un peu jeune.
Une petite dizaine d'années, toi, dans le milieu.
Ouais.
Ah
ouais.
Bah quand même.
Ouais, une petite. Ouais, très bientôt.
En journalisme, ça compte triple. Hein.
Je le présente. C'est vrai qu'on fatigue très vite dans le milieu du journalisme.
Bah oui, bien sûr. Bien sûr.
Je le présente Daz quand même.
Allez, vas-y. Ouais.
Donc effectivement, vous avez peut-être reconnu Brice Miclay. Non, on t'a pas.
Ouais.
Je sais que c'est sympa, je sais pas.
Ouais, non, c'est cool, c'est cool, t'inquiète.
Si, tu as ton track ID sur Combini, t'es
tout à fait. Voilà, exactement. C'est mon instant de gloire, ouais.
Non, donc nous sommes avec Brice. Merci beaucoup d'être là, Brice Miclay.
Merci pour l'invitation.
Et avec Simon Clair également. Merci beaucoup, Simon. Je retrace rapidement votre parcours, votre CV, ce que vous faites en tout cas actuellement. Brice, toi, donc on le disait, à peu près depuis une petite dizaine d'années, journaliste. Mm-hmm. Tu écris dans la presse écrite, notamment avec Libération, avec Slate, avec Tsugi, West France, je sais pas si c'est toujours d'actualité.
Oui, bien sûr.
Ouais. Les Inrock, Trax Magazine aussi, on va revenir sur Trax. On doit aussi un bouquin. Qui est édité chez Le Mot et le Reste et qui s'appelle Sample aux origines du son hip-hop.
Tout à fait.
Je t'avoue que je l'ai pas lu, je l'ai feuilleté à la Fnac, mais ça a l'air très bien.
Bah ouais.
T'en es fier encore quelques années après, t'en es fier encore?
J'ai du mal à l'en lire, mais c'est normal. Je pense que c'est normal, tu vois. C'est souvent comme je sais pas, dans la musique, tu vois, des fois.
C'est difficile de se réécouter.
Des fois, se relire, c'est un peu.
Tu vois que les défauts.
Je vois que les défauts, puis surtout, t'y passes des mois.
Ouais.
Donc forcément, tu vois les défauts après, quoi.
Bah, je comprends.
Mais bon, non, je suis content.
Tu vas nous dire, Simon, toi, si c'est un rapport aussi compliqué avec tes livres, parce que tu en écris aussi. Mais je faisais tout à l'heure le parallèle avec Trax Magazine, parce que Brice écrit pour Trax, et il se trouve que toi, tu es rédacteur en chef.
Exactement.
De Trax Magazine.
Ouais.
Trax, d'ailleurs, on peut le dire rapidement. Historiquement, magazine dédié aux musiques électroniques, mais qui parle un peu plus globalement de culture, de musique, de monde de la nuit, etc.
C'est ça, ouais.
Avec à la fois un magazine papier qui sort deux fois par an, mais aussi un site internet, des vidéos YouTube. On te voit en interview, d'ailleurs, parfois.
Voilà, exactement.
Sur YouTube. Mais il se trouve qu'en parallèle, tu écris aussi pour d'autres médias, Society.
C'est ça, il m'arrive de continuer quand même à piger un peu à côté.
Ouais.
Pour le groupe Sopress. À un moment, je bossais un peu plus pour les Inrock.
Ouais.
Voilà, je fais des petites choses à droite à gauche ou des projets qui sortent du cadre presse pur et dur, mais qui restent quand même liés au journalisme musical. Trucs de documentaire, des choses comme ça.
Ok.
Voilà.
De toute façon, en général, quand on fait ce métier, on va en discuter, on est souvent un peu touche à tout. Il faut un peu diversifier. C'est parce que c'est difficile d'en vivre, j'imagine, mine de rien. Et que donc, on essaye un peu de se diversifier, quoi.
Bah ouais, il faut.
Freelancing.
Je cite quand même quelques-uns de tes bouquins. Le plus récent, il est sur la Corée, sur la culture populaire coréenne.
C'est ça.
Il s'appelle La K-Culture. Donc Corée, la K-Culture. Un bouquin d'Az qui va certainement te parler. Et je trouve l'approche extrêmement intéressante. Pareil, je l'ai pas lu, je t'avoue. Mais rien que le titre me donne envie. C'est Territoire du rap, un tour du monde des lieux et des sons.
Oh.
Et en fait, il a voulu s'intéresser au rap en s'intéressant aux lieux, aux territoires.
Ah, stylé.
L'idée, c'était un peu, dans l'image un peu archétypale qu'on se fait du rappeur, entre guillemets, même si j'aime pas trop ces raccourcis comme ça, il y a toujours un besoin de représenter un territoire,
bien sûr,
voire représenter un quartier, voire représenter un bâtiment, enfin un truc d'hyper local. Et l'idée, c'était là de voir c'est quoi justement ces quartiers, voire ce bâtiment, voire ce lieu précisément.
Ah donc c'est les endroits vraiment voilà, plus que les artistes qui
exactement,
y en viennent.
Ouais. Donc à chaque fois, on remonte un peu l'histoire du rap en prenant tel artiste précis et à quel lieu il est fondamentalement lié, attaché, etc. Et quelle est l'influence de ce lieu dans ce que lui il a pu faire, etc.
Très intéressant.
Et on a
alors
fait ça à une échelle un peu globale en essayant de sortir de la dichotomie un peu Europe-États-Unis du rap.
Ouais.
Donc en trouvant des lieux en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, etc. Des lieux emblématiques du rap local, quoi.
Eh ben ça me fait penser à un podcast que moi j'ai produit, qui s'appelle Californie, et qui marche comme ça. C'est-à-dire qu'on va dans les endroits pour écouter la musique qui vient de South Central, de Long Beach, de Compton, etc. Donc, si jamais vous avez du temps libre, écoutez, ça fait plaisir, c'est pour moi.
Allons-y. Et d'ailleurs, il y a aussi un bouquin, alors je la connaissais pas, et c'est justement en découvrant tout bouquin que j'ai découvert ce personnage qui est Lizzie Mercier-Desclous.
Exactement.
Et ce que j'aime bien, c'est que ça illustre, parce que c'est pas du tout du rap, là, en l'occurrence, et aussi bien Brice que Simon, et ben, globalement, ils traitent, en fait, de plein de musiques différentes, avec tous les deux, j'ai l'impression, comme un penchant pour le rap, et toi pour les musiques électroniques, évidemment, mais globalement, vous touchez à tout, vous vous intéressez à plein de styles, plein de scènes différentes, etc. Et je pense que ça va être très cool. Utile pour cette émission.
Très très cool.
L'ambition dans cet épisode, les amis, c'est d'essayer d'explorer dans ce podcast, globalement, on explore un peu tous les métiers liés à la musique, parce que c'est extrêmement vaste et très riche, la musique. Et parler de journalistes, ça me paraissait important, parce que s'il y a des gens qui véhiculent aussi de la musique, bah, c'est les journalistes, les médias. Et j'aimerais bien qu'on essaie de comprendre un peu ce que c'est que d'être journaliste musical aujourd'hui, comment on s'adapte à différents médias, et que quand on bosse à Libé, on écrit de la même manière que dans Trax, par exemple. Est-ce qu'il y a de la place pour les musiques plus underground aussi dans les médias aujourd'hui, la réalité économique aussi derrière tout ça, à la fois du côté peut-être plus magazine, toi en tant que rédacteur en chef, Brice plus du côté pigiste freelance, qui bosse un peu à droite et à gauche, qui propose des papiers, etc. Ouais. On va essayer de discuter de tout ça. Ça te va, Daz?
Let's go.
Let's go. Et on commence avec une première partie sur un peu l'écriture. Écrire, ou du moins parler de musique. Et j'ai envie de vous demander un truc très bateau, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de musique, d'en faire votre métier? Vous savez, vous avez une idée?
Moi, j'avais
un concours circonstance.
Moi, j'avais un père prof de musique, alors il y avait toujours un peu de la musique à la maison et tout. Et j'aimais bien l'idée de pouvoir... En fait, je me rendais compte que j'aimais autant... faire un peu de la musique avec mes potes et tout, que en parler surtout, en fait. Ouais. Et que le truc un peu d'échange qu'il y a autour de la musique, parce qu'en fait, ce que tu cherches toujours quand même souvent beaucoup derrière la musique, c'est l'échange. Et l'échange, tu le fais en faisant de la musique avec des gens, mais aussi en parlant de musique avec des gens. Et je me rendais compte qu'en fait, les longues discussions de musique où tu t'embrouilles avec des potes sur un détail d'un morceau, d'un tel album, machin, en fait, c'était limite ce que je préférais.
Ouais.
Donc... je sais pas, mon père était abonné à Rock and Folk, je me rappelle. Et je me disais, waouh, ouais, il y a des gens, ils sont payés pour faire ça. Genre, ils disent ce qu'ils pensent d'un disque. Limite, ils s'embrouillent dans les pages sur le disque. Et en plus, ils sont payés. Dans ma tête, je me dis, waouh, ouais, c'est incroyable. Et j'avais pas forcément, j'étais pas allé jusqu'à me dire, mais ça, je pourrais le faire. Parce que je pensais qu'il fallait, je sais pas, plus de légitimité, de machin, de trucs. Mais puis, par la force des choses, en fait, je me suis retrouvé là-dedans.
Ouais.
Et voilà. Mais en fait, c'est cette espèce de débat, de discussion, de prendre la musique comme point de départ pour parler en fait d'un peu tout. C'est-à-dire que l'idée est pas juste de savoir si le son de la basse sur le morceau numéro 3 de tel album est bien ou pas bien, mais de parler de tout ce qui peut découler derrière. Donc voilà.
Et t'as un cursus académique lié au journalisme ou à la musique ou
Moi, quand j'étais petit, j'ai fait le conservatoire.
Ouais.
Mais par contre, j'ai pas fait d'école de musique. D'école de journalisme.
De journalisme, ouais.
Donc, je suis arrivé au journalisme.
Comme
un
ça.
Peu comme ça, quoi, en écrivant dans des webzines, dans des trucs voilà, où évidemment on n'était pas payé, mais on était content de pouvoir parler de disques qu'on aimait bien. Quoi.
Ça remonte à loin pour toi aussi, Brice cette envie de parler de musique, d'échanger autour de la musique de...
À la musique, oui. Après, moi, je voulais être journaliste, de base. J'adorais la presse musicale, etc. J'étais un gros, gros lecteur. Mais je savais pas que c'était possible d'être journaliste musique, en fait. Enfin, pour moi, c'était inaccessible, tu vois. Enfin, je me visualisais pas le milieu, en fait. Mais bon, il se trouve que bon, j'aimais écrire depuis longtemps, que j'étais passionné de musique depuis enfant, et donc voilà, j'ai fait des études de journalisme.
Okay.
J'ai eu la chance de pouvoir en faire, et en fait, c'est pendant les études que je me suis dit non, mais en fait, c'est possible d'être journaliste musique. J'ai compris, enfin, c'était moins inaccessible, quoi. Plus les études avançaient, enfin, allaient se terminer, plus je me disais que j'allais me lancer à la fin, et finalement, c'est ce que j'ai fait.
parce que tous les deux, on retrouve un discours qui est, à la base, je me disais pas que c'était possible. Est-ce que c'est uniquement de l'ordre du fantasme, ou parce que, en fait, on apprend ensuite, en étant de l'autre côté, qu'il y a une réalité aussi, qu'il y a peu de gens, au final, qui vivent uniquement du journalisme musical spécifiquement?
Moi, je me dis, je parle peut-être pour toi là, pour le coup, mais je sais qu'on a tous les deux grandi en province. Moi, dans ma tête, je me disais, moi, j'ai grandi en Normandie.
Je me disais,
le journalisme musical, c'est forcément des gens dans des beaux bureaux à Paris. En fait, dans ma tête, c'était pas, je connaissais personne à Paris. Enfin, c'était trop loin, tout ça.
C'était inaccessible, en fait.
Ouais, c'était un milieu. Ouais. Et un milieu qui était très loin de là où j'étais, quoi. Mm-hmm. Donc, je pense que ça a participé aussi au fait de se dire, j'aimerais bien en être, mais en vrai, je vais jamais en être.
Mais je pense que c'est un peu le même truc pour tous les domaines de presse SP, hein. Je veux dire, la presse jeux vidéo, c'est pareil, les gens.
Ouais,
je pense, ils sont payés pour jouer aux jeux vidéo, c'est incroyable et tout. Enfin, tu vois, c'est les mêmes ressorts. Mmh. Et, comme c'est des milieux, effectivement, assez SP, fermés, etc., on se dit qu'on n'y arrivera jamais, quoi. Donc,
Je pense qu'on connaît mieux les coulisses aujourd'hui que nous, on les connaissait à l'époque. Nous, on voyait le magazine, honnêtement, les coulisses, je les connaissais absolument pas.
Mmh. Ouais.
Donc, je savais pas comment on faisait pour devenir journaliste musique. Moi, je me disais, je vais faire journaliste, mais à West France, ou un truc comme ça, d'ailleurs. Je travaillais toujours pour West France et j'ai bossé un peu pour West France, mais je me disais pas je vais être journaliste musique quand j'étais au lycée, quoi.
Et quand t'étais en école de journalisme, est-ce que le journalisme culturel et même plus spécifiquement musical était un truc dont on parlait comme impossible débouché quand on fait une école comme
ça? Non. Non, bah, enfin, si j'exagère, si tu peux toujours être journaliste culture, mais on te dit pas, enfin, on te dit que le journalisme généraliste, sportif aussi, il y a du taf dans le journalisme sportif, dans d'autres domaines, etc. Mais dans la culture, non, parce que t'as la crise de la presse, t'as eu la crise du disque, etc. Doublement, effet qui se coule, quoi. Donc, non, c'est pas un secteur très porteur. Ouais. Et quand t'es en école de journalisme, on m'a pas découragé, mais j'étais un peu seul à vouloir le faire.
Dans ta promo, c'était pas une vocation qui était...
Non, un peu, mais je pense que pas mal étaient un peu effrayés par... je sais pas, en fait, je sais pas trop, je vais pas parler pour eux, mais moi, ça a été un cheminement, quoi. Ça a été long de me dire ok, je vais essayer, quoi, c'est possible, quoi. Parce que tout le monde me disait que c'était mort, en fait. Il y avait pas de, les magazines vont se casser la gueule, tu vois, tout ça, quoi. Il y a pas de taf, la musique, il y a plus de thunes, il y a pas de boulot, en fait, il y en a.
ce qui est notable, par contre, c'est qu'effectivement vous êtes quand même spé presse écrite. Alors que les médias évoluent, changent, et que maintenant on met beaucoup l'accent sur la vidéo. Et vous, le cœur de votre activité, ça reste
l'écriture.
Ça reste l'écrit, ouais.
Ouais. Moi, je pense que l'économie la plus, je le dis schématiquement, mais l'économie la plus stable dans les médias, en fait, ça reste les médias qui existaient déjà il y a 10-15 ans pour une bonne partie. Enfin, j'exagère un peu, mais les nouveaux médias ont pas des modèles économiques très stabilisés. Alors ils font des nouveaux formats et tout, c'est cool.
Ouais, ils tentent des trucs, mais
pas sûr qu'ils aient tous un modèle. Ouais, tu vois, Libération, ils ont un modèle économique. Alors il y a des difficultés parfois, etc. Des fois ça va mieux, des fois ça va moins bien, mais au moins ils ont un modèle économique et ils savent faire, ils payent les gens.
Quand on parle de la presse SP musicale, moi je me rappelle que fin des années 90, début des années 2000, par exemple la presse hip-hop, il y avait L'Affiche, il y avait Radical, il y avait Groove, il y avait plein de trucs. Ouais. Je sais pas s'il y en a toujours autant aujourd'hui, tu vois. Donc est-ce qu'il y en a un même
petit, il y a ceux qui se relancent là, Mosaïque et Osmose, il y a Roulé aussi,
33 Carats.
Ouais. 33 Carats.
Il y a presque d'ailleurs une forme de, pas de retour, mais en tout cas des gens qui ont envie de reproposer de la presse écrite, notamment dans le rap, effectivement.
C'est trop bien.
Ouais. Ouais.
En fait, c'est dans l'évolution, je trouve, de la presse spécialisée musique, t'as un truc aussi, c'est que souvent les magazines se créent au moment où il y a une sorte d'effervescence culturelle. Mmh. Et donc, dans cette effervescence culturelle, il y a des artistes qui sont un peu les têtes de proue du truc. Mmh. Et les magazines se créent aussi un peu pour relayer cette effervescence culturelle-là qui, à ce moment donné, n'a pas voix dans les autres médias, quoi. Mmh. C'est ça qui fait que, dès le début, t'as certains médias qui vont récupérer un lectorat. Ça, c'est la bonne chose. Mais après, t'as aussi des médias qui s'enferment un peu là-dedans. C'est-à-dire qui se retrouvent à devoir évoluer avec le genre musical en question et qui se retrouvent à devoir, au bout d'un moment, avoir un public de plus en plus vieillissant qui doit toujours parler qui doit faire pour la 50e fois une couverture sur tel ou tel artiste qui a déjà été 50 fois en couvre. Mmh. Et donc, c'est parfois aussi l'impasse dans laquelle tu peux te retrouver en tant que magazine. C'est, je sais pas, imaginons, t'es né en faisant des couves sur, enfin, au début du rap, en faisant des couves sur les pionniers. Et en fait, tu fais que des couves là-dessus. Et dès que tu parles d'artistes plus récents, ton lectorat qui vient pas de là te dit non, on veut pas ça, ouais, sinon on n'achète pas. Et donc, t'es obligé de faire que ça. Et à la fin, bah.
Ouais, donc c'est un genre de soufflet qui retombe.
En fait, c'est difficile de sauter d'une génération à l'autre quand t'as un magazine musique, parce que tu te construis ton lectorat autour d'une génération et d'une mouvance culturelle, on va dire.
Et après, t'es bloqué.
Et cette mouvance culturelle, bah, en fait, les gens sont.
Il y a de l'inertie.
Les gens ont tendance à pas forcément s'intéresser à ce qui
reste dedans. T'évoquais rock and folk tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui arrive à ce magazine. Qui à l'inverse des Inrock, par exemple, les Inrock se sont vachement ouverts en fait à plein de trucs très très différents.
Ils sont beaucoup bougés. Ouais, c'est intéressant justement. Je pensais aux Inrock. Ouais.
Bah, les Inrock,
c'est intéressant justement. Enfin, parce que justement, ils étaient dans un modèle plutôt un vieux modèle, en tout cas une ligne éditoriale un peu historique, voilà, on va le dire. Ils ont changé une première fois, une deuxième fois, et puis là ils reviennent à quelque chose d'actuel, mais qui revient un petit peu à la base, etc.
Ouais, donc tu écris pour les Inrock d'ailleurs, tous les deux d'ailleurs.
Donc ils reviennent à quelque chose de plus d'un peu plus historique, enfin voilà, d'une identité un peu plus rock, indie, tout ça. Donc c'est intéressant de voir le cheminement de ce magazine qui est toujours là, alors qu'on disait qu'il allait canner, je sais pas combien de fois, mais toujours là quoi.
Parce que juste pour terminer un peu sur le côté background, on a évoqué évidemment vous êtes des amateurs de musique à la base, vous adorez ça. Est-ce que, parce que dans cette émission on reçoit souvent des gens qui sont dans le milieu musical, dont c'est pas forcément le métier de faire de la musique, mais qui mine de rien ont été amenés à ce métier parce qu'ils en faisaient aussi un peu. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez ce rapport-là? Est-ce que d'ailleurs ça peut être un atout, mine de rien, d'être un peu musicien pour parler de musique ensuite?
Je sais pas forcément si c'est un atout. Moi, j'en ai fait un peu, mais j'en ai fait, ado, très loisir, quoi, on va dire, sans vocation à ce que ça devienne pro. C'est parfois un atout parce que ça peut aider à comprendre un peu comment la musique est construite, etc. Mais parfois, ça peut tomber aussi dans un truc d'une presse qui va être purement analytique de la technique, de comment c'est fait, de est-ce que non, c'est pas. Il y a un peu la même chose pour les gens qui sont dans tu vois tout, les ingénieurs du son, les trucs comme ça, qui vont écouter un album juste en se disant ah ouais mais c'est pas bien enregistré là. Sauf qu'en fait bon bah parfois c'est mieux que ce soit mal enregistré. Il y a aussi des, enfin selon les esthétiques et tout. Et donc je pense que c'est un atout par certains aspects, mais ça peut aussi parfois.
Même si en théorie le bon ingé son, c'est aussi une démarche artistique. Et il sait s'adapter.
C'est vrai qu'il peut. Dédicace à tous nos amis.
Qu'est-ce que t'en penses toi, Brice, de ça, de la pratique musicale en tant que journaliste? Toi-même, t'es musicien?
Ouais, je suis musicien amateur. J'avais des projets avant de faire du journalisme. J'ai arrêté quand j'ai commencé le journalisme musical, donc j'ai arrêté il y a 10 ans quand même. Enfin, j'ai fait vite fait sur Paris, mais très peu. Ça m'a saoulé de payer 20 balles.
Une cage
d'une heure, et ça tape à la porte à 59, mais moi, ça m'a aidé, parce que j'avais vu un peu quand même le milieu de la musique, plutôt en Bretagne, donc les concerts, des festivals, les studios, etc. Je comprenais bien le processus de fabrication de la musique. L'ayant côtoyé en amateur, attention. On avait fait des premières parties, blabla. Donc en fait, ça m'a permis, je pense, de pas rêver du milieu de la musique en fait, parce que je l'avais déjà vu. Enfin, je pensais que ça ressemblait à ça. En fait, ça ressemble pas à ça quand je suis là à Paris. C'est très différent. Mais ça m'a permis de moins déifier les artistes, de moins déifier ce milieu, de moins vouloir en être à tout prix.
C'est important quand on parle de musique, un peu de désacraliser la musique en tant que telle, ses acteurs, etc.
Vaste question.
tu peux avoir les deux approches en fait.
Ça va
teinter la façon dont tu vas écrire dessus, de justement se dire que c'est un milieu exceptionnel avec des gens qui sont des extraterrestres Je pense que ça peut être intéressant de voir certains papiers sous cet angle-là et puis avoir d'autres en contrepoint des articles qui sont beaucoup plus terre à terre et c'est des gens normaux finalement et c'est juste des artistes.
Moi je trouve que autant les artistes, parfois, tu les rencontres et tu dis, bon, bah, c'est vraiment des gens comme moi. Enfin, en fait, leur disque est vraiment génial, mais eux, ils sont vraiment normaux. Et c'est un compliment, hein, vraiment.
Voire pas cool.
ouais, je sais pas.
Ça peut arriver, mais c'est pas... Y a pas un mythe de l'artiste qui est un connard exigeant.
Mais autant, je trouve que parfois, c'est bien aussi de... sacraliser la musique, c'est-à-dire que il y a des disques où en fait tu peux te dire juste ouais c'est bien, ouais non c'est vraiment cool, non c'est vraiment très bien, mais tu vois tu je trouve que tu passes une étape quand tu commences vraiment à estimer que c'est vraiment un disque qui va changer ta vie, etc. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens dans le journalisme musical qui sont bons parce que ils arrivent à avoir cet enthousiasme qui est à mon avis un truc ultra fondamental dans ce métier-là, de recevoir un nouveau disque que tu connais pas, l'écouter et te dire waouh, il y aura un avant et un après, ce disque c'est le meilleur du monde. Et pas mal de gens que je connais qui sont
t'as pas été blasé en fait.
Ouais voilà. Et je trouve que pas mal de bons journalistes musicaux ont tendance toutes les deux semaines à dire j'ai trouvé le meilleur disque du monde. Et en fait, je trouve ça super. Et déjà, enfin même là, c'est assez touchant même dans l'idée de se dire t'es toujours aussi ému par un disque qui vient de sortir, etc.
Et en même temps, pour faire mon relou, moi parfois je suis certains médias plus que journalistes, où en fait t'as l'impression qu'ils s'enthousiasment tellement chaque semaine pour un nouveau rookie, t'as l'impression qu'il va changer la face du monde alors que dans deux mois on en parlera quasiment plus. Il peut y avoir cet aspect-là qui peut être un peu plus énervant par contre.
Mais le journaliste et le média, c'est deux choses différentes. Mais
tu fais bien sûr.
Non, mais c'est vrai, t'as raison. Ouais. Moi, je pense que il y a aussi le côté. Des fois, on tombe un peu dans. T'as l'habitude de rencontrer des artistes, etc. Tu fais pas mal d'interviews. Il y a des fois, je sais pas, il y a des interviews où tu te dis non, mais en fait, je viens de vivre une heure assez extraordinaire. Enfin, avec quelqu'un d'extraordinaire, tu vois. Enfin, pas quelqu'un. C'est quelqu'un comme toi, tu vois. Il y a pas de problème et tout. Mais c'est, tu sens dans ce qu'il dit, tu sens que t'as vécu un moment
fort.
Tu te dis, même ça peut être un quart d'heure, tu vois. Et des fois, ouais, tu te reconnectes un peu en te disant, ouais, en fait, je fais quand même un métier cool, quoi. Je rencontre des gens. Enfin, les gens sont pas forcément sacralisés, mais t'as des moments, je trouve, qui sont très forts où t'as vraiment l'impression d'avoir à faire quelque chose d'un peu extraordinaire.
Il y a des interviews, je trouve, où il faut à la fin un peu limite. Prendre un peu de temps pour toi, genre des interviews tu vois qui t'ont vraiment marqué, ou à la fin t'as envie d'être 30 minutes tout seul et juste te dire waouh, là j'intègre la vibe de la personne et tout.
Vous avez des exemples, ça vous gêne de citer éventuellement des gens que vous avez rencontrés qui vous ont marqué?
Je t'avoue que moi quand je dis ça, je pense à une interview avec Jeff Mills qui était axée sur Miles Davis et Coltrane. Donc tu passes une heure à discuter de Miles Davis et Coltrane avec Jeff Mills, tu vois. Tu ressors, tu fais ouais c'est cool.
Légende de la
techno. Et à côté de ça, tu vois. J'ai passé là, la semaine dernière, j'ai passé un quart d'heure avec Sako, de Chien de Paille, et qui est quelqu'un de humainement fantastique, tu vois, ou des gens comme Prince Wally aussi, c'est des gens que tu ressors, tu te dis, j'ai rencontré quelqu'un de normal, mais en même temps d'extraordinaire, tu vois.
Moi, j'ai deux interviews qui m'avaient marqué, là, comme ça, spontanément. La première, c'était avec Ryuichi Sakamoto. Rest in peace.
Ouais, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps.
Et je me rappelle de cette présence. Tu vois, c'est quelqu'un d'extrêmement calme, d'extrêmement posé, qui répond très bien aux questions, qui dit plein de choses très intelligentes, mais surtout une espèce de présence ultra apaisante et ultra... t'as plus vraiment de problème, en fait, quand t'es à côté de Ryuichi Sakamoto. Il y a un espèce d'état d'esprit très calme. En plus, à ce moment-là, il sortait d'un premier cancer. Il avait fait un espèce d'album de retour. Il s'était intéressé aux questions des radiations suite à Fukushima. Donc, il y avait un truc un peu de survivant. Et il avait vraiment une sorte de présence qui m'avait marqué. Je me rappelle d'une autre interview aussi, c'était avec FKA Twigs qui commençait tout juste. À l'époque, je crois qu'elle sortait son premier EP. Et pareil, un truc un peu de présence qui fait que j'en étais presque un peu déstabilisé et à plus trop savoir mes questions et tout, parce qu'une espèce de manière d'être qui fait que tu te sens un peu rien du tout, quoi, à côté.
Genre un peu mystique, quoi.
Vous savez quoi? Parce qu'on aime bien un peu illustrer cette émission avec de la musique. Eh ben, mettons un extrait de chacun, une personne qui vous a marqué. On prend un track. Et ça peut être du Jeff Mills, par exemple, ou du Sako, ou du Chien de Paille, ce que tu veux. Mais du Prince Wally, effectivement.
Prince Wally, le feat avec Ali sur son dernier album.
Allez, Prince Wally.
Rod Veiler, je crois.
Le morceau s'appelle Rollweiler, absolument. On s'écoute un petit extrait.
J'ai déjà le prénom si j'adopte Rollweiler. Il aura du flair, je l'appellerai Rockweiler. Que tu sois jardinier ou Glock Seller. On prend les pièces, mais s'ils sont broc, les sellers. J'ai déjà le prénom si j'adopte un Rollweiler.
Bon, malheureusement, on essaie de limiter les extraits parce qu'après, ouais, sur YouTube, on a des problèmes.
On se fait shooter.
Mais tout le monde peut aller écouter. Ensuite, Rottweiler, ouais, Prince Wally.
Prince Wally, il y en a d'autres.
Hein. Ouais, tout cet album est très bien, son dernier album.
L'album est très bien, il a des feats très bien aussi, avec Souffrance notamment.
Toi, tu choisis quoi, Simon?
Bah, puisqu'on parlait de Sakamoto qui est décédé il y a une semaine, je crois. Il y a un morceau que j'aime beaucoup de lui, c'est sur son album qui s'appelle Async. Ça, c'est le nom de l'album. Et je crois que le morceau doit s'appeler Solaris, si je dis pas de bêtises.
Écoute, je vais dire tout de suite. Solaris, absolument. Est-ce que c'est sur le bon album? Async, absolument. Et bah, c'est ça que t'as envie d'écouter.
C'est très, très, si c'était mon enterrement, j'aimerais bien qu'on passe ça. Il y a un truc très solennel, mais très, très bon.
Retenez dans l'entourage aussi. Voilà.
C'est une sorte d'élégie. Hein.
Allez, Solaris, Ryuichi Sakamoto. Apaisant. Tu veux un enterrement cool, toi.
Voilà.
Merci pour ces partages, les gars. Reprenons un peu le fil de notre discussion. Je me demandais, moi, lorsqu'on écrit sur la musique, et de manière diverse, en fait, parce qu'il y a vos bouquins, il y a les articles dans les différents médias et tout, j'imagine que l'approche, elle est renouvelée sans cesse ou différente, que vous adoptez des angles, des points de vue et tout différents. Mais est-ce que quand même, lorsque son métier c'est de parler de musique, on a un peu une espèce d'objectif de se dire, moi en parlant de musique j'ai envie de véhiculer ça, telle idée par exemple. Est-ce que c'est un truc que vous ressentez, que vous pouvez verbaliser ou...
Je pense qu'il y a des idées, alors je sais pas si c'est... je pense qu'il y a des idées qui sont liées au métier du journalisme musical. C'est un truc, enfin en tout cas moi je pense qu'il y a ce truc là, c'est un truc un peu d'ouverture. C'est-à-dire que moi, j'aime pas trop tu vois, l'espèce de snobisme un peu musical de ouais, t'écoutes ça? Ouais, c'est sympa, mais moi j'écoute ça. Dommage. Ah ouais, toi t'écoutes ça? Ouais, mais moi j'écoute ça, c'est mieux. Enfin, tu vois, cette espèce de concours un peu idiot, je trouve. Et moi, ce que j'aime bien, c'est de me dire, bah là, on va parler, je sais pas, de Ryuichi Sakamoto. Et puis derrière, on va parler de Daddy Yankee. Et en fait, les deux sont très bien. Il n'y a pas de non,
tu
mais ça, c'est
niveau.
Voilà, ouais. Et ce truc d'ouverture culturelle et de curiosité, moi, c'est vraiment une chose que j'aime bien et je sais pas si je cherche à le véhiculer dans tous les articles que j'écris, mais en tout cas, j'aime bien l'idée que peut-être que les gens qui lisent tout ça se disent, en ressortent en se disant, ah, mais j'ai le droit d'aimer ça. Parce qu'en fait, ça, j'aimais, mais je pouvais pas trop le dire, mais en fait, j'ai le droit. Ça a une valeur culturelle. Ouais. Je pense que tout a quand même une sorte de valeur culturelle. Après, on peut en débattre des heures, mais je trouve ça bien de mettre sur une sorte de pied d'égalité les choses et qu'il n'y ait pas ces espèces de hiérarchies de musique. Parce qu'en fait, derrière les hiérarchies de musique, il y a toujours des hiérarchies sociales, ouais, des trucs de t'as grandi là, donc t'écoutes ça, t'as pas grandi là. Et je trouve que c'est un peu idiot. Donc ce truc de curiosité, je pense qu'il est fondamental pour au moins pouvoir, même à titre personnel, se renouveler tout le temps et pas être bloqué sur une musique qui va vieillir, quoi.
Et toi, de ton côté, Brice, si dans ton travail, t'essayes de dire quelque chose, entre guillemets?
Je ne sais pas. Non, vraiment, je ne sais pas. En fait, il y a des trucs que j'aime bien faire, mais globalement, je ne sais pas si c'est dû au fait que je sois en indépendant et donc que je fasse plusieurs choses différentes et donc que ce soit très varié en termes de format d'écriture et d'intention éditoriale et tout. Je sais pas, ou alors c'est juste moi qui ai pas de vision. Après, moi, j'aime bien écrire sur la musique. C'est vrai que il y a des genres journalistiques que j'aime particulièrement, comme le portrait. C'est vrai que le portrait, bah voilà, il y a toujours le côté un peu percer la carapace qui, voilà, pour montrer aux gens autre chose, sortir des discours formatés, c'est vrai. Mais je te rejoins. C'est toujours, et je pense qu'il faut vraiment toujours garder ça à l'esprit parce que c'est le métier de journaliste qui veut ça, mais c'est de garder nous, c'est des lecteurs. Mais en tout cas, le public, mais le lecteur, est toujours l'avoir en tête et toujours écrire pour lui, et c'est à lui qu'on rend des comptes, à nos chefs aussi, mais, donc voilà, donc j'ai pas d'objectif, en tout cas, vraiment personnel quand j'écris, mais plutôt un objectif, professionnel qui suit de, du journaliste.
Une forme d'éthique aussi professionnelle.
Oui, bon, oui, oui, enfin. Pas spécialement, je suis pas un modèle d'éthique ou d'intégrité.
Non, mais quand on a un métier, en théorie, on respecte certains codes, quoi.
Ouais, ouais, on essaie.
Du public,
ouais,
des acteurs en chef.
Ouais, faut les au moins faut les avoir en tête, et quand tu les dépasses, faut en être conscient. Oui, ça c'est sûr. Ouais.
Je peux même te poser la question à toi, Doaz. Alors, ton métier, c'est pas que de parler de musique, mais tu parlais de podcast ou tu parles de musique et tout.
Ouais.
Et hormis le côté, évidemment, tout le monde cherche à transmettre sa passion, mais est-ce que même t'as envie un peu de mettre en avant quelque chose, une vision?
Ouais, moi je. J'essaye parce que effectivement je parle beaucoup de rap et je me rends compte de stream en stream et de podcast en podcast qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément tous les codes et qui auraient bien aimé rentrer dans cette musique mais qui à un moment donné se sentaient pas légitimes de l'écouter parce que justement ils n'avaient pas grandi dans les bons endroits ou ce genre de truc, et moi j'essaie de faire péter ce truc là en disant mais t'as complètement le droit d'aimer Mobb Deep alors que t'as jamais grandi dans le ghetto ou quoi qu'est-ce, tu vois, et c'est un truc que j'essaie de faire, de montrer que la musique reste accessible, de montrer qu'il y en a pour tous les goûts, que tu peux pas dire ouais c'est de la merde, en fait c'est faux, c'est juste que ça te plaît pas, mais à part des trucs vraiment éclatés, mais mais tu vois que globalement il y aura toujours un truc qui réussira à t'accrocher, et puis il y a beaucoup de gens qui me disent aussi parce que moi je passe toujours de la musique quand je suis en live etc, et il y a beaucoup de gens qui me disent ah ouais mais en fait ok, je voyais pas le rap comme ça, tu vois, parce que tu connais mes ambiances, les samples minimalistes, mais où on laisse justement de la place à la musique, à l'ambiance, etc. Et où le rappeur, des fois, s'arrête de rapper et laisse l'instru tourner pendant 40 secondes parce qu'il a envie, tu vois. Et les gens, souvent, on me dit « Ah ouais, je voyais pas ça comme ça. Je voyais un truc vraiment agressif, genre trap, ce genre de truc, alors qu'il y a plein d'ambiances différentes, tu vois. » Et c'est montrer ça, montrer que il y a rien qui t'empêche d'écouter du Wu-Tang et du FK Twigs et du Future, et juste après tu repars sur du Outkast, quoique Future Outkast c'est un peu lié, mais tu vois, de mixer les époques, il y a plein de gens qui me disent ah ouais pour moi le rap ça s'est arrêté en 97, tu vois, alors que c'est ultra ça fourmille, tu vois.
Bien sûr.
Alors évidemment il y a plein de trucs qui se ressemblent. Quand il y a un train qui sort, évidemment, il y a plein de gens qui rentrent dans le, enfin, qui montent dans le wagon et qui essaient de faire à peu près la même chose. Mais c'est super riche et c'est très important, de mon point de vue à moi, de rester à l'écoute. Parce que effectivement, moi, j'ai grandi à l'époque des Tupac, Dre, Wu-Tang, etc. Et je pourrais très facilement me dire, ok, le rap, c'était bien de 92 à 98. Et après, il y a plus rien, tu vois. Et c'est un truc logique de rester bloqué sur la musique avec laquelle t'as grandi, et ça demande des efforts, parfois, de sortir de ça. Et moi, j'aime bien, justement, discuter avec des gens qui ont mon âge, de ma génération, et dire, hey, les gars, et qui disent, non, mais le rap, de toute façon, c'est éclaté, il n'y a plus rien, machin, et puis de dire, bah attends, écoute ça, quand même, ça va t'intéresser, tu vois. Et de passer le relais, en fait, tu vois, d'être vraiment un passeur de témoins.
Bah, c'est cool, parce que ça permet de dialoguer entre les générations.
Ouais.
Et, je sais pas, moi, j'ai des collègues qui ont 25, parfois 22 ans, qui sont donc plus jeunes que moi, et qui me parlent de rap parfois quasiment en disant ouais, bah, tu sais, il faut connaître les classiques, genre Laylo, PNL. Et je me dis, ah ouais,
c'est mignon.
En même temps, c'est vrai que c'est des classiques, mais.
C'est des classiques modernes.
Ouais.
Mais
en même
temps, je trouve ça cool de me dire, bah, c'est vrai que c'est pas mal aussi d'envisager l'évolution du rap avec ce point de départ-là, parce que ça veut dire que t'as un champ des possibles qui est beaucoup plus large que quand t'as 30 ans derrière d'histoire.
Moi, c'est justement, c'est un truc que je kiffe, justement, parler rap avec des gamins qu'on... En fait, le rap est tellement riche aujourd'hui que t'as pas besoin, justement, d'avoir grandi avec le Wu-Tang pour comprendre le truc, et t'as des petits qui ont jamais écouté de rap américain, tu vois.
Normal.
Et je trouve ça trop cool de discuter avec eux, et puis de bousiller tout leur mythe. Tu vas dire, mais non, mais ça, gars, t'as pas le sample original, attends. Non, tu vois, il y a ce côté un peu grand frère, un peu relou, tu vois. Genre, alors, mais attends, t'as pas la bonne, vraiment, tu connais pas la bonne version de ce truc-là. Mais d'un autre côté, je trouve ça génial de me dire, ok, il y a des gens qui viennent à la musique aujourd'hui, qui ont pas du tout taffé, mais aussi bien du côté des artistes, genre Kobalade, tu vois, qui te dit c'est quoi IAM, tu fais, ah ouais, quand même.
Je pense qu'il y a un peu de posture aussi.
Oui, bah oui, bien sûr.
Et Uzi Vert aussi qui avait dit Tupac,
tu connais pas Tupac.
Ouais.
Bah vas-y, tu connais forcément, même si t'as pas écouté, tu vois qui c'est, tu vois.
Je pense, tu vois, moi j'ai commencé à écouter du rap en 99, donc à 9-10 ans, par mon grand frère. Et je connaissais pas non plus, mais même jusqu'à mes 12-13 ans, j'ai commencé à comprendre l'histoire. Genre, pour moi, Dr. Dre, C'était un nouveau ouais, gars, tu vois.
C'était un docteur. C'était, je non, pensais que c'était un
c'était 2001, quoi.
C'était un nouveau, un ouais. nouvel artiste, quoi. Ouais. C'est, ouais, ok. Bon, le mec, il avait déjà 15 ans de carrière, tu vois.
Bon, il a fait que deux albums, donc.
Oui, mais bon, ouais, tu vois. Ouais. Et en fait, faut être indulgent aussi, tu vois. C'est normal qu'à 13 ans, t'ailles pas fouiller dans l'histoire du genre, et puis ça vient à un moment donné, quoi.
Et justement, Brice, est-ce que, parce que moi, je suis d'accord avec le discours que tu viens de tenir, en disant, l'approche plus patrimoniale, entre guillemets, elle n'est pas forcément nécessaire pour apprécier la musique. Par contre, je pense que souvent, c'est une plus-value et que c'est une approche intéressante. Est-ce que, et je pense que c'est un truc qu'on retrouve aussi dans vos métiers, en fait. Est-ce que, Brice, parfois aussi, tu te dis, moi, j'ai envie de mettre en avant un truc historique, ancien, soit parce que c'est encore de la pertinence aujourd'hui, ou simplement parce qu'il faut s'en rappeler ce truc, il faut en faire du patrimoine, tu vois.
Alors, il y a de ça, oui. Il y a aussi parce que le passé, c'est quand même ça. Enfin, c'est une base de données d'histoire de musique complètement dingue, et quand tu commences à assez vite j'ai commencé à écouter de la vieille musique, en fait, et c'est surtout que en tant que journaliste ça me donne plein d'idées, en fait, de connaître l'histoire de la musique, et quand je vois qu'il y a un album qui va être qui est sorti il y a 30-40 ans, enfin bon, ça c'est le truc un peu facile, mais tu vois, ça va faire résonner un truc. Je connais le contexte, je connais le mouvement, je connais l'artiste. S'intéresser à l'histoire de la musique, c'est la comprendre, mais c'est aussi, pour les journalistes, c'est répondre un peu au pourquoi et au comment on fabrique la musique aujourd'hui. C'est quand même un peu le taf des journalistes aussi. Donc pour moi, pour être journaliste musique, il faut connaître quand même l'histoire de la musique. Tu peux être jeune journaliste et être focus sur les tendances, etc. Mais je pense que ces gens-là font pas un travail journalistique
de fond. Et...
Ouais, enfin, j'ai pas envie d'être médisant du tout. Je pense que c'est essentiel pour un journaliste de connaître le contexte de fabrication des genres et des genres qu'on écoute aujourd'hui pour les mettre en perspective.
Oui, pour un journaliste, oui, pour moi, c'est effectivement c'est évident. Oui. Ouais. Quand même, il faut connaître un peu les classiques, les mouvements, bien sûr, super important.
Tu partages ça, Simon, j'imagine.
Pas grave, en fait, je pense qu'il faut qu'on... Enfin, nous, on a un boulot de contextualisation à faire. Et en plus, maintenant que tout le passé, en gros, en tout cas le passé récent, est accessible, en vrai, t'as tout en ligne et tout, on est d'autant plus perdu dedans, parce qu'on va... Enfin, il y a trop de choses à remonter, etc. Donc, en fait, nous, notre travail, il est de synthétiser, de contextualiser et d'expliquer que ça... Ça sonne aussi un peu parce qu'il y a eu ça avant, etc. Et pas juste un contexte d'ailleurs de musique, de remettre dans le contexte d'une époque, d'un contexte social, politique, un contexte social, etc. Et je trouve que c'est ça qui permet aussi de faire résonner parfois un disque ou un artiste qui sort là maintenant avec son époque. C'est qu'on comprend aussi que ça s'inscrit dans un héritage culturel qui est particulier, quoi.
On enlève la musique, enfin juste la musique en tant que telle, juste voilà, vraiment la matière de base de la musique, c'est génial, on est d'accord, mais si t'enlèves tout le contexte social et historique, ça devient un peu plus tristoun quand même,
une partie complètement,
c'est une manière aussi de parler du monde qui vous entoure, de parler de musique. C'est un peu bateau ce que je dis, mais ça me paraît un truc essentiel en réalité.
Ouais, je pense pour votre mag, quand même. Pour Trax, oui, mais moi aussi, oui, complètement. Parler de rap dans les années 2010, c'est pas anodin. Ça veut dire plein de choses, mais je parle pas que de rap, mais il y a effectivement le contexte social et culturel et social est important, bien sûr.
En fait, même le débat autour de la musique, de toute façon, il se fait rarement uniquement sur la musique, en fait. C'est-à-dire que on parlait de PNL tout à l'heure, je me rappelle que quand PNL est arrivé, tout le monde s'embrouillait sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Mais en vrai, les embrouilles, elles étaient pas tant sur des questions sonores. Alors, il y en avait, mais c'était aussi qu'est-ce qu'ils représentent, non mais regarde comment ils sont habillés, enfin tu vois, c'était des trucs comme aussi.
Je me rappelle exactement ça.
Et qui sont surpris. Plus vraiment juste des questions de musique, en fait, mais qui sont la musique dans leur ensemble, tu vois.
Bien sûr. Moi, je me rappelle très très bien quand je suis tombé dessus, où vraiment, t'as une réaction... instinctive et instantanée de qu'est-ce que c'est ça, on dirait des joueurs de foot de 3e division albanaise et tout, qu'est-ce que c'est le délire. Et pour moi, PNL, c'est justement le truc où je me suis dit ouah, parce que j'étais aussi dans ce truc de me dire il faut pas que je reste sur mes acquis, et là vraiment pour le coup c'était une découverte, et je me suis dit ok, en fait je peux être surpris encore, parce que quand j'écoutais PNL en 2015, je me disais mais c'est marrant, parce que individuellement chaque partie que je vois là, c'est nul. C'est-à-dire que les lyrics, ils sont éclatés. La musique, c'est pas la meilleure. Les styles, effectivement, faut aimer, tu vois. Mais les trois ensemble, ça crée une alchimie, un truc spatial, quoi. Et que tu peux pas reproduire. Parce qu'ils ont essayé, d'ailleurs, avec tous leurs sous-groupes.
Ouais.
Les DTF ou ouais, je sais pas quoi, MMZ ou tous ces trucs-là. Tu vois, il y a que des consonnes à chaque fois, là. Et en fait, ils ont jamais réussi, tu vois, les autres à recréer ce truc-là. Et tu te dis, ah ouais, 2015... Je peux encore me prendre des tartes alors que j'en attendais absolument rien. Et ça, c'est super cool aussi de se dire
PNL,
ça.
PNL, c'est pas que de la musique aussi.
Ouais.
C'est les plans drones
de un quart d'heure. Ouais. Non, c'est vrai qu'ils ont réussi à créer une imagerie et à instaurer une ambiance. En fait, quand t'écoutes PNL, t'écoutes pas des rappeurs, t'écoutes des ambianceurs. Ça te met dans un mood. Tu vois, le délire du dealer mélancolique, il fallait le trouver quand même. Donc c'était pas... Franchement, et c'est là, je me suis dit, ok, je peux vraiment être surpris par du rap français. Tu vois, parce que t'as toujours effectivement le côté les rappeurs français qui regardent en fait les Américains en disant, regardez, on est là, etc. Et tu te dis, non, en fait, on a vraiment notre truc et qui mérite qu'on s'y intéresse, quoi.
Bah, tu vois, quand PNL est sorti, je me rappelle qu'il y avait des gens, et je trouvais ça intéressant, qui faisaient le parallèle avec le blues. Ouais. Parce qu'il y a ce truc ultra introspectif de douleur intérieure et intime, tu vois, que alors qui a toujours été là en substance d'une manière ou d'une autre dans le rap, mais qui là était vraiment décuplé, quoi. Et ouais, typiquement, ce truc de mise en perspective est intéressant parce que effectivement, t'es pas du tout sur la même époque, les années 30, les trucs comme ça de blues qui sortaient. Mais c'est intéressant de se dire,
eux, ils doivent même pas en être conscients.
Non, je pense pas.
Parce que moi, enfin, j'en parlais avec des potes qui sont aussi fans de hip-hop, etc., qui me disaient non, mais ça, c'est pas du rap. Et je leur ai dit, mec, ce que tu me dis là, c'est exactement ce que tu m'as dit quand Bone Thugs and Harmony est arrivé. C'est-à-dire des mecs qui rappent vite, mais qui se mettent à chantonner sur des beats ultra lents, etc. Et moi, je me rappelle que Bone Thugs, quand c'est sorti, il y a plein de gens qui écoutaient Mobb Deep et Wu-Tang qui étaient là en disant, mais non, mais ça, c'est pas du rap. Tu vois, c'était toujours les mêmes. C'est marrant de voir comment, à 20 ans d'intervalle, en fait, les débats reviennent et finalement, ça bouge pas tant que ça, tu vois. Et je trouve ça super cool.
T'as envie de réagir, Brice, tout à l'heure.
Non, c'est vrai que le rappeur bluesman, entre guillemets, c'est un truc qui est pas nouveau, quoi. Enfin, ouais. Quand t'écoutes Prodigy, quand t'écoutes, plein, il y en a plein. Donc, c'est un truc qui est pas inhérent au rap, mais c'est un truc qui est, notamment dans les années 90, c'est quand même beaucoup développé, quoi. Donc, voilà.
Ouais, il y a des ponts logiques, en fait, entre les différents styles.
Ce truc du spleen, du blues, c'est vrai qu'on l'a dit en France, mais en France, ça existait déjà. Quand Booba, il rappe sur Pas le temps pour les regrets, je prends un des titres les plus connus, il y a de ça aussi, tu vois.
Ouais, mais pas, enfin, Booba plastronne beaucoup quand même, en mode Superman, machin, etc.
Ouais, mais en même temps, c'est abîmé, tu vois.
Ouais.
C'est l'ego, mais abîmé, ça. Et le blues, c'est aussi comme ça, une partie du blues, tu vois. Les Muddy Waters, les Rolling Wolf, etc. C'est ce mélange-là, mais il y a toujours ce côté bluesman. Mais bon, après, dire que Booba est un bluesman, c'est un peu abusé. Mais bon, voilà, dans l'idée, c'est...
Tu vois, quand ils disent « J'emmène la misère en balade », en vrai, tu le traduis en anglais, ça fait quasiment un titre de blues, tu vois.
C'est All in Wolf.
Le débat là sur PNL, il m'évoque un truc dont je voulais justement parler. C'est aussi être capable à un moment, enfin, vous allez me dire d'ailleurs, est-ce que c'est le rôle d'un journaliste, de se positionner. C'est un peu aussi la question derrière la critique musicale, un truc historique, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ou alors de façon plus nuancée en réalité, parce qu'on a bien compris que c'est pas intéressant en fait quelqu'un qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais qui globalement va un peu plus prendre position en disant ça c'est intéressant, par exemple. Et c'est pas toujours évident, j'imagine, quand on est face à un truc, et l'exemple de PNL nous le démontre, de se dire ah, comment je me situe, qu'est-ce que je vais dire aux gens à propos de ce truc. Est-ce que...
Ouais, bah en fait, il y a le fait que normalement la critique n'est pas un avis vraiment, n'est pas vraiment une opinion, normalement quand tu critiques un album, tu critiques dans l'intérêt général, entre guillemets, l'intérêt public. Est-ce que c'est intéressant pour les gens, en tout cas pour le lecteur auquel tu vas t'adresser, de s'intéresser ou de pas s'intéresser à cette chose-là? Qu'est-ce qui est dans son intérêt? Après, t'as évidemment ta sensibilité qui guide beaucoup. Mais pour moi, une critique, c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien. C'est d'expliquer plutôt est-ce que c'est intéressant, est-ce que vous devriez, est-ce que ça vaut le coup, vous y attardez ou pas, quoi. Enfin, je schématise beaucoup, mais
ça vous est arrivé justement d'être, enfin, de passer à côté d'un truc C'est-à-dire que pour vous, c'était genre un épiphénomène et vous vous êtes rendu compte après coup que ça a explosé.
Tous les journalistes, là, j'ai pas d'exemple en tête, mais je pense que...
Pareil, j'ai pas vraiment d'exemple.
Vraiment de passer à côté de la proposition artistique, de dire ouais, vraiment, ouais, je trouve ça naze.
Il y a ce fameux truc qui revient régulièrement de je ne sais plus quelle star, entre guillemets, du journalisme musical historique qui avait défoncé Daft Punk.
Ouais, c'est les Inrock.
C'est les Inrock.
C'est Christophe Comte, ouais.
Alors, et quand ça sort, bon, c'est ce truc qui ira nulle part, tu vois, c'est de la merde.
Il y en a pas mal comme ça.
C'est marrant, ouais, carrément, de vraiment pas capter le truc, tu vois, de se dire waouh, j'ai rien compris. Et d'avoir après l'humilité de le reconnaître en disant ouais, j'étais complètement con. Toi,
Non, et puis en fait, je pense que c'est bien en fait de voir que les Inrock ont défoncé les Daft Punk en fait. Je trouve
pourquoi
c'est je sais pas, je trouve que c'est le témoignage d'un moment de quelqu'un qui a eu cette impression là. Tout le monde, en fait, j'ai l'impression que tout le monde a la même sur Daft Punk, tu vois. Et t'as ce truc, cette espèce de verrue qui, le papier est cool, hein, tu vois, y a pas, c'est pas un mauvais papier, mais enfin, je l'ai pas en tête exactement, mais ça m'avait pas choqué, mais je trouve ça c'est un témoignage d'un moment de Christophe Comte qui à ce moment-là réagit de telle manière à l'album, et je pense que c'est bien aussi ces chroniques de les laisser comme elles étaient,
ça dit quelque chose de son époque,
ouais, là. Ça dit quelque chose de ton époque, et c'est pas forcément mal d'être passé à côté d'un truc,
et parce même que dans tu l'histoire de Daft Punk c'est cool, tu vois, ouais. J'ai bossé sur un podcast sur l'histoire de Daft Punk pour Amazon Music, et même, tu vois, le fait que Daft Punk arrive et qu'il y a un témoignage de l'époque, effectivement, comme tu dis, de gens qui ne comprennent pas ce que c'est, ça montre aussi que eux, à ce moment-là, ils sont peut-être un peu en avance, peut-être trop en avance pour certains, etc. Et donc, dans l'évolution de la carrière du groupe, c'est bien de voir qu'il y a un moment où, en gros, la presse parisienne un peu cool ne les comprend pas. C'est intéressant.
Moi, quand j'écris sur la musique, quand je fais une chronique d'album, j'ai pas peur de me tromper, quoi.
Ok.
En tout cas, et si je me trompe, non, en fait, tu te trompes. Tu peux pas te tromper. Enfin,
oui, c'est ton avis, c'est ton ressenti. Donc,
ouais. Donc voilà, c'est pas parce que après il y a des, faut pas être non plus guidé par les intérêts industriels, etc. Ok, il y a une hype, et c'est bon, mais toi, tu peux être ne pas être tout à fait raccord avec ça, et comme plein de gens d'ailleurs.
Il faut pas que ça devienne justement une posture de dire je vais me mettre systématiquement en opposition.
En fait,
ça,
il est là le grand débat, c'est la critique où tu te dis. Lui, je le défonce.
Ouais.
C'est là, tu vois.
Ça arrive, ça? Il y a des mecs qui font ça?
Il y a des gens qui font ça. Moi, je fais pas ça. J'aime
moi
pas
non
trop
plus,
ça.
Moi mais non plus, mais ça se fait moins.
Ouais.
Ça se fait moins. Après, je pense qu'il y a aussi. Il y a des critiques très acerbes. Et je pense que c'est aussi parce qu'il y a. Enfin, moi, je le lis un petit peu comme un côté. Vous voulez nous vendre ça à tout prix? Ok, ouais. Très bien. On va en parler. On va vous dire ce qu'on en pense.
C'est ça.
Voilà. Par exemple, les critiques de Libé, qui vont se farcir, c'est Marie Cloque notamment qui fait les papiers sur Edith Preto, qui sont des papiers que je vous conseille de lire, qui sont vraiment très bien faits, sur Angèle, etc., sur Stromae aussi, je sais pas si c'est elle qui l'a fait, mais je crois que c'était Olivier Lame. Mais en fait, j'ai l'impression, il le dirait beaucoup mieux que moi, mais j'ai l'impression qu'ils se disent ça, qu'ils se disent, ok, vous voulez nous survendre le truc, vous voulez absolument qu'on le chronique, vous le mettez partout, on va le faire, et puis.
Calmer les choses un peu.
Non. Je sais pas, mais c'est un peu, ok, là, on suit l'agenda, et voilà ce qu'on pense de cet agenda-là, quoi.
C'est ça, c'est que c'est vrai que on te.
Je
pousse,
le vois un peu comme ça en tout cas.
On te pousse beaucoup à écrire sur tel artiste qui sort parce que en fait le truc qui peut être un peu en fait tu dois avoir un avis sur tout alors qu'évidemment t'as pas un avis sur tout, il y a plein de choses tu les as pas écoutées, il y a plein de choses tu les as écoutées et t'en penses rien.
T'en fous.
Et voilà. Et donc mais parfois on te demande d'écrire quand même dessus. En tout cas il y a aussi un jeu de RP etc.
Rester dans l'actu
qui demande de traiter tout ça. Et c'est vrai que parfois, ça donne l'impression que le point de vue et l'idée que tu as de tout ça est un peu secondaire tant qu'il y a un article qui en parle.
Ouais.
Et donc, je pense qu'effectivement, il doit y avoir des réactions un peu viscérales vis-à-vis de ça, comme celle dont on parle de gens qui disent « Ok, je vais en parler, mais je vais dire ce que je pense. »
C'est un truc. Et j'en pense pas du bien.
Ouais, c'est vrai.
C'est un truc qui se pose régulièrement quand on est journaliste musique, que... Voilà, vous parliez d'injonctions industrielles, que ça soit dans les rapports aux artistes directement.
Ah, on va parler des chèques.
Les
fameux chèques, bien sûr.
Alors après, il peut y avoir l'aspect financier carrément. Je parlais même là plus en termes de liberté éditoriale avant tout. Mais après, on peut parler effectivement de l'aspect financier. Peut-être dans la deuxième partie d'ailleurs de ce rapport. Mais, ce côté, si tu dis qu'un truc, toi en tout cas, tu n'as pas apprécié, au texte, c'est pas si intéressant. Derrière, des gens peuvent te le reprocher, te le dire et que ça peut te mettre en mauvaise posture.
Honnêtement, je m'en soucie pas. Je m'en soucie pas, il m'est pas arrivé non plus beaucoup de choses comme ça. Après, moi, je suis pas un chroniqueur de l'extrême, quoi. Je fais pas non plus énormément de chroniques d'albums, j'en fais. Souvent, les mags ou les titres, voilà, font une liste d'albums qui est plutôt intéressante. Et puis, les pigistes se les répartissent aussi en fonction de leur centre d'intérêt. Donc, tu récupères souvent des chroniques qui potentiellement t'intéressent, qui sont un peu dans ton esthétique. Enfin, c'est quand même la majorité des chroniques que les pigistes font, j'ai l'impression. Mais après, donc résultat, j'ai pas été confronté. Oui, en fait, plutôt des artistes des fois qui sont pas contents de plutôt l'artiste directement, parce que je pense que les RP, les attachés de presse, savent pour certains médias, en tout cas, que ça se passe comme ça et que ça sert à rien de que c'est le jeu entre guillemets. Et les attachés de presse, pour la plupart, sont professionnels et savent que ça sert à rien de venir ensuite engueuler ou peut-être qu'ils le font, je sais pas. Moi, en tout cas, ça m'arrive pas. Puis c'est, ça arrive, bon, c'est pas très grave. Non, mais il n'y a pas de conséquences, tu veux. Après, on peut retravailler sur autre chose en bonne entente.
Par contre, t'as déjà eu, donc, du coup, des artistes qui ont mal réagi à...
Ouais, à des chroniques ou à des papiers dans lesquels ils étaient nommés, ouais. Ouais, c'est arrivé. C'est plus, ouais, c'est arrivé, ouais. Mais je pense que c'est arrivé à tous les journalistes musique.
Ça peut devenir au bout d'un moment même une barrière.
Une profession ou... Parce que nous, on parlait de ça avec qui? On parlait de ça avec Florian de...
Oui, Florian Le Serre, de 135 Médias, ouais, absolument.
Où il nous disait, lui, que particulièrement dans le rap français,
si
t'étais un peu dur avec un album, tu risquais de te faire péter la gueule, du coup...
Je sais pas s'il le disait aussi clairement, mais
c'est comme ça qu'on
l'entendait. Si t'as ça, c'est vrai. Après, tu sais que le rap français, c'est pas la musique classique.
Ouais.
Si tu tacles un chef d'orchestre, tu vas pas te faire attraper par la section corde. C'est vrai. Donc bon, c'est vrai que le rap français, voilà, bon, tu sais que dans une soirée, oui, tu peux te faire attraper, mais il faut accepter aussi, il faut pas que ce soit une pression. Après, bon.
Mais ce qui est marrant, c'est que pour lui, pour Florian, ouais, il nous expliquait que lui, du coup, préférait voir le verre à moitié plein, tu vois. Donc ça impacte complètement l'édito. C'est-à dire que chez nous on fait pas de chroniques négatives, tu vois, et là
parce qu'il fait pas de journalisme.
C'est pas son métier.
Mais c'est vrai que c'est ces publications là qui ont pignon sur rue et les gens pensent peut-être à tort que la personne qui est en train de parler de l'album est justement journaliste, donc a une déontologie, une éthique, etc. C'est un mélange des genres.
Je fais le parallèle. Alors moi j'ai jamais fait de journalisme musique, bien que à mon métier je me rapproche parfois, j'ai l'impression, du journalisme. Par contre, j'ai fait du un peu plus pur journalisme quand je bossais dans le matériel audio, où là vraiment je testais des guitares, des trucs comme ça, etc. Et à la rédaction donc d'Audiofanzine, il y avait des réflexions parfois sur tel matériel qu'on a reçu et qui est vraiment très mauvais en fait. Et est-ce que ça vaut le coup
d'en parler,
de sortir un album, n'importe quoi, un article? On dit que c'est de la merde et souvent on disait bah non en fait, ça intéresse personne. De toute façon, l'idée c'est de guider aussi les gens dans leurs achats, des choses comme ça. Là c'est un cadre précis, hein, ce dont je parle. Mais quel intérêt de dire un truc est nul? Mieux vaut mettre en avant une alternative qu'on trouve intéressante et faire un article sur ça.
Bien sûr. Surtout dans de la presse, par exemple papier, où t'as le prix du papier qui est toujours plus cher, etc. Tu vas pas forcément prendre de la place dans ton magazine papier pour ça. Après, je respecte vraiment les gens qui le font. Nous, sur Trax, on le fait pas forcément.
C'est-à-dire quand vous avez un avis un peu trop négatif, vous dites, ça sert à rien.
On se dit pas, on va parler de ça pour dire qu'on trouve vraiment ça pas bien, parce que, enfin, ou alors faut vraiment que ce soit des très gros artistes où effectivement il y a eu un effet de survente. Mais je pense qu'il y a un truc intéressant à souligner aussi, pour bien comprendre le journalisme musical aujourd'hui, c'est que il y a eu plusieurs positions, on va dire, au fil du temps. Et effectivement, je pense que quand Brice ou moi, on a commencé à lire la presse musique, on était dans une presse très prescriptive, c'est-à-dire que tu achetais un magazine de musique pour voir des tunnels de chronique aussi parfois à la fin qui te disaient en gros ça vaut le coup d'aller écouter, ça vaut pas le coup. Et donc en fait on t'aidait un peu à te faire une opinion sur les disques pour ensuite pouvoir aller les écouter. Bon, maintenant en fait en deux clics on a écouté le disque, donc en fait ça va presque plus vite que de lire le magazine en question. Donc le journalisme musical est passé de plus en plus à un journalisme qui est un journalisme de critique musicale, un journalisme de storytelling. C'est le grand mot de l'époque. Maintenant, tout le monde veut faire du storytelling. Et donc, beaucoup dans la presse, maintenant, cherchent, Trax en fait souvent partie, à raconter l'histoire un peu de l'artiste, une grande histoire, en la mettant en perspective, avec du contexte, etc. Ce qui fait qu'en fait, indirectement, t'as un peu moins besoin de te positionner sur la musique. Alors jusqu'à des cas un peu extrêmes où ça devient juste du storytelling et donc parfois t'as des figures, des cas de figure où t'as un artiste qui dit bah dans ce cas-là j'ai même plus besoin des médias, je vais le faire moi-même. Ouais. Et t'as Maître Gims qui produit son propre documentaire sur Netflix qui est pas ouf, tu vois.
Et puis il y a un écueil quand même à ça, c'est que ça participe à la personnification de la musique et parfois ça, le personnage prend complètement le dessus et pff,
mais est-ce que flemme, quoi. Je parlais de ça avec Brice justement il y a pas si longtemps que ça. Et je me posais la question de est-ce que maintenant que les artistes sont aussi de moins en moins dispo pour les médias,
parce ça c'est une réalité.
Ouais, c'est une réalité.
Globalement, enfin, les artistes aujourd'hui disent j'ai plus besoin tant que ça des médias, je leur donne pas de temps.
Faut voir, ça dépend du calibre des artistes.
La proportion d'artistes qui donnent pas d'interview est plus grande qu'avant.
Ouais, c'est ça.
D'accord. Il y a toujours des mystères dans la musique, des groupes mystérieux, des gens qui boudaient les journalistes, etc. Mmh. Là, c'est devenu vraiment une stratégie marketing qui peut être prise vraiment du développement de l'artiste des premières années pour en faire une marque de fabrique. Ouais. C'est,
bah,
c'est
PNL.
T'as beaucoup d'artistes qui se disent PNL, bah, en fait, je vais pas donner d'interview, comme ça, je serai PNL. Sauf que bon, t'es pas vraiment PNL. mais du coup, comme ça fait aussi que c'est plus difficile de discuter avec les artistes, peut-être aussi parce qu'ils y voient moins d'intérêt, puisqu'ils ont leurs propres médias qui sont leurs pages Instagram ou des trucs comme ça. Et ben peut-être qu'on va revenir quand même un peu plus à cette dimension critique, c'est-à-dire que les journalistes ont quand même besoin de raconter des choses. Mmh. Et donc, s'ils peuvent pas parler aux artistes, s'ils peuvent pas connaître un peu l'histoire des artistes, parce que c'est des artistes qui émergents et donc on n'a pas encore tous les éléments, etc., et les artistes les expliquent pas, bah peut-être qu'en fait on va revenir aussi à un truc où on parle beaucoup plus de la musique, quitte à peut-être parfois dire en vrai c'est pas si ouf, là vous vous emballez un peu ou des trucs comme ça. Je suis pas sûr que les artistes aimeront, par contre. Peut-être qu'ils se remettront à faire des interviews.
Non, mais ouais. Il n'y a pas besoin des artistes pour parler de leur musique normalement.
Ouais, c'est ça.
C'est toujours très bien de les avoir. Il faut donner la parole aux gens qui font la musique. C'est extrêmement important. C'est aussi notre taf d'ouvrir les guillemets et de laisser les gens parler, de laisser la place aux gens qui font les cultures musicales. C'est extrêmement important. Après, s'ils veulent pas, c'est aussi à nous d'inventer des formats, d'inventer des angles, d'inventer autre chose. Et peut-être qu'on a une vision. C'est bien aussi de, enfin, la musique d'un artiste, c'est pas uniquement ce qu'il a créé, c'est aussi comment c'est reçu. Mm-hmm. Peut-être aussi se focaliser sur comment nous on le reçoit et ce qu'on en pense ou ce qui peut être intéressant pour le public. C'est sans l'artiste, c'est bien.
Sur le rapport, sur le fait que les artistes aujourd'hui souhaitent aussi moins s'exprimer, est-ce que, hypothèse, vous me dites si vous la validez ou pas, peut-être que c'est n'importe quoi, il y a tellement de surréactions aujourd'hui aux informations à travers les réseaux sociaux que aussi beaucoup d'artistes de plus en plus se protègent par rapport à l'éventualité, à la réception de ce qu'ils vont raconter.
Alors oui, mais en fait...
Et qu'en parlant pas trop, ça évite qu'on se fasse taper dessus parce qu'on peut avoir dit une bêtise.
Ouais, ça c'est vrai, ça c'est sûr. Après, en même temps, si tu parles pas du tout et que tu donnes aucune interview... Et que du coup, la presse se retrouve à devoir chroniquer ton disque, quitte à en dire du mal, ça générera presque encore plus de réactions. C'est-à-dire que les fois où, par exemple, Libé se sont laissés aller à des chroniques un peu acerbes sur certains artistes, bah, sur les réseaux sociaux, ça, tout le monde parlait que de ça, c'était un peu la folie, etc. Donc, les médias tombent pas dans ce piège-là, mais ça pourrait presque être intéressant pour eux aussi, parfois, de taper un peu plus sur les artistes en termes de reach, si on est vraiment juste sur cette logique-là, tu vois. Après, ça pousse pas forcément à faire ça, parce qu'il y a plein d'autres enjeux là-dedans.
Quand on parle de reach, c'est toucher le plus possible de gens.
Ouais, effectivement. Ouais.
Non.
T'en penses quoi? T'as envie de défoncer des trucs dans un podcast? Tu pourrais défoncer des trucs?
Je fais ça tout le temps.
Toi, t'as peur de rien, toi?
Bah ouais, après... C'est aussi le jeu, tu vois, d'être un petit peu... Mais un jour, je me ferai attraper la veste par un artiste qui viendra me péter la gueule, tu vois. Mais c'est pour ça que je parle surtout de rap qu'un riz, comme ça. Qui vont pas prendre l'avion pour me tabasser, tu vois.
Et puis après, il y a les critiques, et puis il y a l'outrance qu'on retrouve, par exemple, sur les réseaux, parfois.
Ouais. Je pense qu'il faut, quand t'es journaliste et que tu fais une critique négative, faut accepter l'idée de la possibilité de te faire attraper.
C'est vrai, non, mais vraiment. Partie du métier pour toi.
Non, ça fait pas partie du métier, ça fait pas partie du métier, mais il y a quelques années... Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 20 ans ou des choses comme ça, les mecs en radio, il y avait quand même des mecs qui se faisaient attraper dans les studios de radio, il y a des équipes qui débarquaient dans les bureaux de Radical, de l'affiche, des RER et tout, il y a eu plein d'histoires comme ça.
Ouais.
Et c'est beaucoup moins présent aujourd'hui parce que c'est beaucoup plus structuré et qu'il y a beaucoup plus de filtres et que... il y a moins, il y a aussi moins d'équipes dans le rap au sens équipe. résultat, le risque il est moins grand, mais il existe toujours, tu vois. Enfin, voilà, ça arrive quand tu vas à un événement, etc. T'as des artistes qui sont là. T'as fait une mauvaise chronique ou un truc comme ça. Faut l'accepter. Ouais. Faut juste accepter, c'est tout.
Après, il y a la chronique qui est dure avec l'artiste, ouais. Puis la chronique qui se contente de dire bah ouais, la musique elle est pas ouf.
Ouais.
Après, c'est aussi à l'artiste. Non, mais... Et je pense que les artistes sont plus pros maintenant aussi.
Oui. Alors, il y a un truc aussi. C'est qu'il faut prendre en compte que les artistes sont plus pros. Mais du coup, sont aussi beaucoup plus chiants en interview. En vrai, il y a des artistes, en interview, c'est nul. Ils ont rien à dire, ils sont pas intéressants du tout. Et parfois, tu te sens un peu obligé de faire l'interview pour montrer que t'as fait ton travail et que t'es allé faire l'interview, etc.
Ouais.
Mais il va pas toujours en sortir des choses exceptionnelles. Et donc, il y a pas mal d'artistes qui aussi, parfois, ont eux-mêmes conscience qu'ils sont pas forcément très bons en interview. Mmh. Et donc, se disent, bon, on va pas en faire, comme ça, ça créera du mystère. Mmh. On se dira, waouh. Parle jamais, c'est Kendrick Lamar, il disparaît, il réapparaît 6 ans après et il casse tout. Et donc il y a un peu aussi ce truc-là, je pense.
C'est vrai que Booba, par exemple, qui autant peut être ultra profond sur certaines rimes et en interview, je suis toujours choqué. Je me dis, c'est incroyable, j'ai l'impression que c'est pas le même mec qui a écrit le texte là, parce qu'il est complètement à la masse et tout. Et tu sais, politiquement, ses avis, ils sont flingués, il y a rien, tu vois, tu te dis, mais comment le mec, il peut être aussi deep sur certains trucs et être aussi con en vrai, tu vois? Et là, par exemple, je pourrais me faire attraper pour ça.
Ouais, mais pourtant, tu dis des choses.
Je vais avoir des problèmes.
Ouais. En fait, on disait que les artistes sont plus pros. Honnêtement, pour qu'un artiste vienne dans tes DM pour te dire que ton article, il est pourri, que t'as pas fait ton taf, etc., il en faut peu.
Ouais.
Vraiment, et des trucs, pour des conneries.
Ah oui, carrément.
Incroyable, quoi.
Ouais.
Mais c'est aussi parce qu'ils ont trop l'habitude d'avoir des chroniques.
Ça arrive de temps en temps, ouais. Mais oui, parce qu'ils sont, en fait, je pense que.
Ouais, c'est ça aussi.
Ils sont moins habitués aux avis négatifs.
Ils acceptent plus la critique, en fait.
Ils acceptent, je pense qu'ils acceptent un peu moins. Oui, ils acceptent moins la critique, quand même. Parce que quand tu. Je pense que c'est parce que le milieu de la critique est plus effectivement, il y a eu ce qu'a expliqué Simon, le passage au storytelling, etc., auquel on revient un tout petit peu, j'ai l'impression. Mais, voilà, les artistes se sont habitués à être mieux traités, notamment dans le rap, ce qui est pas une mauvaise chose parce qu'ils ont été très mal traités par toute une partie de la société et de la presse notamment. Mais bon, résultat, ils attendent des choses et parfois ils sont un peu surpris sur la manière dont ça se passe, quoi. Ouais.
Il y a un truc que je trouve très pertinent que tu disais, Simon, tout à l'heure, sur le fait que la presse, historiquement, a été peut-être un peu plus une presse de prescription, mais parce qu'aussi, c'était l'un des rares canaux, en fait, qui permettait d'avoir connaissance, tout simplement, de l'existence de plein de musiques, et qu'aujourd'hui, à travers le web, il y a tellement de trucs de niche, etc., qui déjà peuvent commencer à orienter ton écoute. Même s'il y a encore beaucoup de travail certainement effectué au terme. Moi, j'en veux beaucoup. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, non pas dans les médias, mais dans les vrais canaux de diffusion musicale, qui sont les plateformes de streaming, par exemple. Que là, effectivement, il doit y avoir un travail d'accompagnement pédagogique, etc. Et justement, peut-être pas de prescription, c'est un bien grand mot, quoique l'algorithme, d'une certaine manière, est un prescripteur. Mais en tout cas, d'orientation, un peu, de dire, tiens, jette un coup d'œil à ça, machin. Ils essaient de le faire un peu avec la playlist, une curation.
Non, mais il y a même...
Est-ce que c'est pas ça le futur du journalisme ou...
Ah, je sais pas.
Est-ce que c'est du journaliste? Non, t'allais dire un truc avant, pardon.
Non, j'étais un peu coupé, mais il y a des plateformes de streaming qui font de l'édito. Moi, je bosse pour l'édito de Cobuzz, aussi, par exemple. Et là, ils font de la recommandation, mais parce qu'ils ont fait le choix, de cette éditorialisation, ils en ont fait un argument marketing.
Un argument de vente,
ouais.
Et même d'ailleurs, pour être juste, je sais que par exemple Deezer, je suis aujourd'hui abonné Spotify, pendant quelques années j'ai aussi été abonné Deezer, et par exemple je l'ai trouvé sur la mise en avant à travers l'interface plus fort que Spotify pour mettre en avant du français par exemple. Et là en fait on voit qu'effectivement il y a une identité quand même, s'il y a le même catalogue, etc. Deezer m'a proposé un peu plus de trucs en français à travers sa homepage, etc. Et donc tu vois quand même des différences, ils essayent, il y a des playlists éditoriales parfois intéressantes et tout, mais il y a des lacunes quand même en termes de curation encore.
C'est sûr, mais après je pense que quoi qu'il arrive on peut pas trop aller contre ça. Et je sais pas, là j'ai en tête un exemple qui est marrant, c'est en ce moment on parle beaucoup de l'hyperpop comme nouveau courant, et je vois beaucoup de gens qui sont très très enthousiastes à l'idée de tout ce qui sort sous cette étiquette là. Étiquette qui a été créée par Spotify, qui a créé une playlist qui s'appelle Hyperpop, et c'était le début du courant Hyperpop qui à mon avis restera dans l'histoire des années 2020 comme un des grands courants, etc. Et tout ça, ça part au départ du nom d'une playlist sur Spotify qui a sans doute été choisie à travers un brainstorm autour d'un tableau Velleda, etc. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas, parce que de toute façon, c'est plus la manière dont le terme va être approprié, etc. Le terme d'hyperpop flottait déjà un peu avant à travers d'autres courants, mais j'ai l'impression que c'est là, pour le coup, vraiment Spotify qui a un peu ancré le truc comme ça. Et en fait, après, de toute façon, ça évoluera selon les artistes qui sont là-dedans. Donc,
Non, mais les plateformes ont une vraie responsabilité. Maintenant que, et c'est peut-être quelque chose qu'elles, elles ne veulent pas entendre, mais maintenant que ce sont les moyens principaux pour l'accès à la musique, plus que d'essayer de capter toutes les nouveautés, je pense que tu as aussi une responsabilité en tant que plateforme de faire en sorte que le back catalogue il soit riche et accessible. Attends. Et moi, ce qui m'avait surpris, c'est qu'effectivement, on disait que autour de 90% du Rock'n'Roll Hall of Fame était disponible sur les plateformes, alors que quand on parlait du Hip-Hop Hall of Fame, on tombait à 42%, tu vois. Et ce qui était incroyable.
Et on parle des Hall of Fame où c'est déjà
des gros trucs.
C'est la question du sampling qui fait que t'as des suppressions.
Bah ouais, aussi. T'as des trucs qui disparaissent. Enfin, on sait que dans le hip-hop, c'est des structures qui se montaient complètement à l'arrache. Les mecs consultaient pas d'avocats, donc les trucs faisaient faillite, fermaient les masters, on savait pas chez qui ils partaient, etc. Et pour que tu te retrouves à avoir un artiste du calibre de MC Solar en France qui était absent des plateformes de streaming pendant depuis le début des plateformes de streaming, c'est quand même
un an, même pas je crois,
qu'il est revenu
un an et demi
et tu te dis en fait ça veut dire que pour plein de gens qui n'ont pas grandi avec Solar à l'époque, le mec n'existait pas, tu vois. Et
je crois même qu'il y a une histoire d'embrouille de maison de disques qui faisait que ces disques n'existaient plus. Solar était plus
Universal, il y avait un
Polydor, parce qu'il avait voulu sortir ses deuxième et ses troisième et quatrième albums, en faire un seul album, et en fait Polydor a voulu les faire deux. Et donc là, donc ça a créé un différent, etc.
Et du coup, ils ont préféré garder le truc et.
Bah, en fait, oui. Alors, je me rappelle plus exactement. C'est Solar a raconté ça pas mal de fois. Je l'avais interviewé d'ailleurs là-dessus. Mais j'ai la mémoire qui flanche un peu. Mais oui. Et donc, résultat, en fait, ça s'est un peu arrangé à. Pas à l'amiable, mais enfin plus ou moins en bonne entente des années plus tard. Et donc, il a ressorti ses troisième et quatrième albums. En un seul album, comme il le voulait à l'époque. Ouais.
Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que en fait, avec le jeu des catalogues, des droits, qui sont souvent temporaires, t'as des chansons qui disparaissent, t'as des albums qui sont pas complets, t'as plein de choses comme ça. Et c'est quelque chose qu'on accepte, que moi j'acceptais en tout cas à l'époque où l'utilisation d'une plateforme comme Spotify était un complément et un compagnon de ma discothèque perso sur disque dur, etc. À partir du moment où tu te dis qu'il y a des gens qui ne passent que par ça et qui n'achètent pas de musique, qui n'ont pas de fichier MP3 chez eux, qui n'ont pas de CD, qui n'ont pas de vinyle, je trouve qu'il y a une vraie responsabilité au niveau des plateformes de faire en sorte de représenter réellement l'intégralité du spectre musical.
Il y a deux trucs qui me font un peu peur dans tout ça. C'est le premier, c'est sur une logique d'algorithme. Je suis très loin d'être spécialiste sur les algorithmes de Spotify, mais j'ai l'impression que si tu commences en mettant, imaginons, du Steve Reich ou de la musique expérimentale comme ça et que tu le laisses tourner sans rien faire pendant une semaine, quand tu reviens, c'est musique pour écouter dans son bain ou music to chill out ou que des trucs comme ça. Donc c'est quand même que l'algorithme t'emmène quand même vers des choses peut-être plus, même si j'aime pas trop le mot, plus facile en termes d'écoute, etc.
Ouais.
Et plutôt que te faire aller vers des choses plus exigeantes. Et il y a aussi un autre truc, c'est que si à partir du moment où toute la musique est concentrée sur Spotify, bon, je pense évidemment que ça n'arrivera pas, mais je me rappelle de ce moment il y a quelques années où MySpace, après avoir un peu vivoté, mais tout le monde les avait oubliés, on dit bon, on arrête. Et en fait, il y a toute une partie du catalogue de MySpace qui a disparu.
Ouais.
Et donc, il y a plein de gens, je sais pas, des groupes d'adolescence, etc., qui étaient sur MySpace, qui ont disparu. Et si Spotify, évidemment que ça n'arriverait pas, mais si Spotify aujourd'hui disparaissait, en fait, il y a beaucoup de musique qui disparaîtrait complètement parce qu'elle n'est pas sortie dans aucun autre support, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, heureusement, c'est pas la perte de master non plus. En théorie, on peut ensuite recoder ailleurs, etc. Mais c'est vrai que ça serait un accès les plus limités. Après, ça, c'est un truc qu'on a de la chance dans la musique, à l'inverse de la vidéo, par exemple, des séries et du cinéma, c'est qu'on a à peu près le même catalogue sur toutes les plateformes.
À peu près, ouais, tout à fait.
Et ce qui fait que si Spotify meurt demain, Deezer a à peu près le même catalogue. Mais ça, c'est une grande chose en tant que. À peu près, oui. Franchement, ça se joue à 10 000 titres, un truc comme ça, je crois, de différence. Enfin, je sais plus exactement.
Oui, je sais pas exactement, mais c'est très proche. Mais en général, les labels ont toutes les plateformes.
Oui, sur toutes les plateformes.
Je sais pas exactement à quoi ça se joue, pourquoi t'es pas sur Deezer, pourquoi t'es pas. Enfin, pour les nouveautés, en général, quand même.
Mais il y a peut-être un risque que on se retrouve avec une offre comme l'offre vidéo qui au départ était complètement généraliste.
En tant que consommateur, on a une grande chance. On n'est pas obligé de s'abonner à plusieurs plateformes pour pouvoir bouffer un peu tout
ça. Ça va venir. Moi, je suis persuadé qu'il y a des gens en maison de disques qui se disent attends, on crée la plateforme Universal Music et tu n'entends que nos trucs dessus.
Et Tidal, il y avait un peu de ça.
Mais c'est bien que
Tidal,
ça a flotté de fou. Parce que justement, les gens n'étaient pas d'accord avec ça en fait.
Et puis parce qu'on a encore un peu en tête la période du peer-to-peer où en vrai la musique c'était gratuit et que vous que vous vouliez qu'on l'ait ou pas, de toute façon on la télécharge.
Ouais.
Donc aujourd'hui tu peux scinder les plateformes en plein de plateformes différentes. C'est juste que les gens ils vont se remettre à télécharger.
Ouais, c'est ce qui se passe avec la vidéo.
Ça rappelle des belles années. Pire tout pire, c'était cool.
On va clôturer tranquillement cette partie pour parler ensuite un petit peu économie. On fera un peu moins long, mais il y a quand même une question que je me pose depuis le début, et c'était un des premiers trucs que je me demandais quand j'ai contacté Brice pour qu'il vienne nous voir. Alors, ensuite, Simon s'est greffé à tout ça. C'est le fait d'écrire, par exemple, on a beaucoup évoqué Libération, qui est en plus une grande institution en France. Et à côté d'écrire pour Tsugi, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que déjà, tu as un média spécialisé, un généraliste de l'autre côté. J'imagine même quand tu écris pour un autre généraliste, Slate ou un truc comme ça, peut-être que tu t'écris pas exactement de la même manière que pour Libé. Enfin, comment ça se passe tout ça? Est-ce qu'on s'adapte un peu? Est-ce qu'il y a un angle à Libé? On dit attends, nous chez Libé on fait comme ça, tu vois? Enfin,
non. Okay. Non, en fait, je pense qu'au début j'ai un peu. C'est vrai que je faisais une différence. J'essayais vraiment de rentrer dans un peu dans les clous des médias, etc. Bon, essayer de taper un peu à côté en termes d'angle. C'est comme ça qu'on se fait une petite place aussi en ayant ses spécificités. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de ton, globalement, j'écris pareil pour tout le monde. Okay. C'est juste là où ça va jouer, c'est sur déjà les sujets. Donc, les sujets, on les aborde pas de la même manière. En fonction de l'artiste, le ton va pas être tout à fait le même. Enfin, voilà, ça s'accorde souvent. Mais alors, effectivement, quand j'écris pour West France, par exemple, je vais pas avoir tout à fait le même ton que pour Trax, par exemple, ou un autre, ou même.
Parce que c'est un généraliste et un spécialiste d'un côté?
Parce que l'angle est pas tout à fait le même, en fait. Globalement, je schématise beaucoup, mais West France, c'est un public plus large, plus grand public, entre guillemets. Donc les sujets déjà sont différents. Les angles déjà sont différents. Donc forcément, la manière d'écrire est pas tout à fait la même. Mmh. T'es plus dans l'informatif, plus dans la clarté. En plus, les formats, par exemple, à West France, ça dépend aussi du format, comment t'écris. Les formats sont un peu plus courts, parce que les pages sont faites comme ça.
Oui, puis, on te commande un nombre de signes, j'imagine.
On commande, en gros, un nombre de signes, oui. Donc, c'est plus court à West France. Et donc, forcément, c'est pas le même public. Donc, c'est là que ça se joue. Mais le ton, le style, entre guillemets, moi, j'ai pas l'impression de shifter, d'avoir tant de médias, tant de personnalités.
Tu te dis pas, là, j'écris pour des petites mamies
Bah, en fait, c'est dans les informations que ça se... Ouais, dans les informations que tu dis, le sujet que tu traites et les informations que tu transmets, que ça se sent plutôt que dans le style.
D'accord.
En vrai, les articles que j'écris, un portrait que j'écris dans Libé, il pourrait très bien être publié dans Tsugi ou dans Trax. En termes de ton, ça change pas... Ça change pas grand-chose.
Par contre, il y a des sujets que Libé peut te proposer, et chez Tsugi, on dira non, nous, on parle pas de ça.
Ouais, bien sûr. Après, chacun a sa ligne éditoriale, et voilà. Ouais, bien sûr.
Toi, parce que tu as la double expérience, Simon, à la fois rédacteur en chef de Trax, mais aussi tu as pigé et tu continues à piger dans différents médias. Tu as à peu près la même approche de Brice, c'est-à-dire que. Ouais.
Je suis assez d'accord sur le fait que c'est surtout les choix de sujets et les angles dans les sujets, des choses comme ça. Après, il y a des petits détails, il y a du jargon, tu vois. Nous, on vient plutôt de la musique électronique chez Trax. Donc, parfois, au lieu de dire un morceau, on va dire un track, tu vois. Mais c'est des détails. Effectivement, si tu serais sur West France, tu ne dirais pas un track, si tout le monde se dirait de quoi en face.
Musique.
Et de la même manière, il y a pas mal d'anglicismes qu'on peut plus se permettre sur Trax, parce que je pense qu'on a un lectorat qui est peut-être plus sensibilisé à l'anglais, ou à des choses comme ça. Mais tout ça, ça reste des petits détails. Et dans le style, de manière générale, je sais que moi, quand j'écris ailleurs, j'ai pas l'impression de fondamentalement changer mon style. Par contre, je suis d'accord avec Brice sur le fait que si on me demande d'écrire 4000 signes, ça va quand même pas du tout être le même style que si on me demande d'en écrire 25 000, où là, en fait, tu vas pouvoir, comme tu as de la place, te laisser aller à quelque chose qui respire plus, ou tu vas peut-être aller dans des choses plus descriptives, peut-être laisser parler un peu plus un truc de style, justement, à proprement parler, là où sur 4000 signes, tu donnes les infos, tu fais en sorte que ce soit dans le bon ordre, que ce soit bien écrit, et voilà quoi.
Dans cette même lignée, je pense avoir déjà la réponse, mais j'ai quand même envie de vous poser la question, pour être certain. Est-ce qu'il y a la même marge de manœuvre, alors, dans la proposition parfois aussi de sujet, parce que ça marche aussi parfois comme ça, le journalisme, c'est-à-dire que soit on dit, bah, nous on a envie de traiter tel sujet, un média dit, etc., qui veut de ça éventuellement, ou le faire pour nous, entre guillemets, ou inversement, tu dis, hey, moi j'ai bossé un truc, j'ai un angle, etc., est-ce que ça vous intéresse de le publier? Il peut y avoir un peu des deux côtés, de la commande ou de la proposition. Ouais. Est-ce qu'il y a la même marge de manœuvre chez du généraliste que chez du spécialiste? Est-ce que Libération peut être intéressé par un papier relativement pointu, par exemple, sur la musique?
Oui. Ouais, parce que bon, Libération a un service culture qui est entre guillemets pointu quand même. C'est un, ils s'intéressent quand même à des choses assez qui pas des choses extrêmement populaires toujours. Enfin, ils font tout quoi. Donc oui, il y a la possibilité de parler de choses relativement confidentielles dans Libération et même dans West France. Dans West France, il y a des si le boss de la musique à West France, qui est Michel Troadec, décide flash sur un artiste, si l'artiste est pas très connu, a priori, bon, faut pas qu'il fasse que ça. C'est pas non plus, il se fait pas des kiffs en permanence. Voilà, il y a une nouvelle fois l'intérêt du lecteur, l'intérêt général, etc. Mais il peut très bien mettre un artiste très méconnu, un artiste émergent du coin, lui faire un beau papier dans West France, ça c'est complètement possible.
Est-ce que ça veut dire, et Simon tu pourras aussi t'exprimer sur le sujet, moi j'en ai l'image, mais il faut pas toujours faire des analogies j'imagine, parce que si je parle par exemple du monde de la télévision, je prends un généraliste, TF1, je me dis je sais que TF1 fera jamais un truc un peu pointu sur la musique, je le sais. À l'inverse, dans la presse écrite, même un généraliste peut être plus pointu. C'est ça peut-être aussi la différence, c'est le fait qu'on est dans la presse écrite.
Je pense que nous, on écrit dans des magazines où qui se le permettent en tout cas. Effectivement, dans Libé est parfois extrêmement pointu en musique. Libé est parfois plus pointu en musique que Trax, par exemple.
C'est intéressant de le dire.
Ouais, c'est vrai.
Non, mais le travail que fait par exemple Olivier Lam est souvent très très pointu et très très bien fait en termes de musique, et ça va parfois vers des choses très expérimentales. Donc je suis pas sûr qu'on soit les mieux placés pour répondre là-dessus, parce qu'on est dans des médias où on peut se le permettre. Après, moi, ce que je constate, c'est que par exemple, à l'échelle d'un magazine et d'un sommaire global ou de choses comme ça, bah tu peux faire des choses très pointues parce qu'à côté, tu as fait des choses moins pointues et l'un équilibre l'autre. Faire que des choses pas du tout pointues, bah, c'est peut-être dommage. Faire que des choses extrêmement pointues, c'est un peu dommage aussi. En fait, nous, c'est une logique, par exemple, qu'on fait même à l'échelle des couvertures de magazines maintenant. Parfois, on se permet de faire une couverture dont on sait qu'elle a moins de résonance, tout le monde ne sait pas ce que c'est, etc. Mais on l'a fait parce qu'à côté, on fait une plus grosse couverture.
À côté, vous faites Mylène Farmer.
Voilà, par exemple, techniquement. On fait Mylène Farmer, mais à côté, on a fait Brutalismus 3000, qui a écrit Brice, d'ailleurs, et qui est effectivement de la musique beaucoup plus radicale, on va dire.
Et ça va nous permettre de faire la transition. Est-ce que ça paye pareil aussi, tous ces médias? Et bon, allez, je vous propose qu'on rentre dans la deuxième partie des réalités économiques un peu du métier de journaliste. Mais avant même que vous me répondiez à ça, c'était plus pour la blague, mais comment on gagne sa vie en parlant de musique? C'est quoi souvent les modèles? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de pige, par exemple, on devrait peut-être un peu expliciter pour ceux qui connaissent pas forcément ce milieu. C'est quoi ton statut et comment tu vis, Brice, par exemple?
Comment je vis?
D'amour
et d'eau fraîche. Non, le statut, alors c'est un statut un peu bâtard, qui est un bon statut, enfin, il me convient bien. C'est un statut de salarié. Je suis payé à l'article. Donc, quand je travaille pour un média, même si je fais un seul article, j'ai une fiche de paye avec le montant de ce qu'on me doit pour l'article.
Et tu es salarié dans quelle société?
Dans le média qui me paye.
Dans chacune des sociétés.
Dans chacune. Moi, j'ai potentiellement, si je travaille pour 10 médias, j'ai 10 fiches de paye dans le mois qui arrive.
D'accord.
D'une certaine manière, t'es salarié de Trax, même si t'es pigiste, t'es freelance.
En termes de purement administratif, en termes de fiches de paye, je suis salarié de Trax.
Ça, c'est une spécificité, même une protection qui est propre au milieu du journalisme.
Oui.
Parce que dans beaucoup d'autres endroits, c'est l'auto-entrepreneur et puis c'est tout, quoi.
Ouais.
Dans le journalisme, il y a quand même une obligation. Enfin, moi, par exemple, j'ai bossé avec Canard PC et je recevais des fiches de paye. Alors que j'étais pigiste aussi, pareil.
Ouais, c'est ça.
Et même si t'as suffisamment pigé dans un magazine, alors je sais pas à partir de quel moment ça commence, mais si le magazine coule, tu touches aussi du chômage. Ah. Parce que c'est ton entreprise, d'une certaine manière, qui a coulé. Ça. Alors qu'en fait, c'est une sorte de salariat en one shot. T'écris un article, t'as une fiche de paie. C'est un statut un peu, mais qui sert en fait à protéger les journalistes du fait que effectivement t'as le monde de la com qui est un peu qui a tendance à vouloir grignoter là-dessus, mais qui va te demander d'être auto-entrepreneur. Il faut savoir que en France, alors même si c'est pas toujours respecté, un journaliste ne peut pas légalement être auto-entrepreneur. C'est-à-dire que même quand tu remplis les cases pour ton auto-entreprise, il n'y a pas de journalisme. Tu es obligé de dire que tu es conseiller en communication, tu vois, de renarder un peu comme ça. Mais c'est un statut qui est justement fait pour éviter ça, parce qu'en fait, quand tu piges, tu cotises aussi pour la retraite, pour des choses comme ça. Et comme effectivement, il y a un aspect un peu précaire dans la pige, parce que tu es un peu soumis aux aléas des magazines, etc. Tout ça, c'est un peu pour protéger les pigistes.
C'est des vieilles conventions. Le journalisme, a a des avantages qui ont été acquis pendant le XXe siècle, plusieurs conventions, et donc ça fait partie des protections.
Avec le fameux qui est souvent utilisé d'ailleurs pour les gens qui n'aiment pas les journalistes,
il y a un confiscal.
D'appâtage, c'est ça.
7 650 €. Ouais.
Donc c'est-à-dire que tu payes un peu moins d'impôts en tant que journaliste, quoi. Ouais.
Et c'est censé compenser les frais, parce qu'en fait, quand tu es journaliste, tu vas souvent, surtout quand tu es pigiste, tu vas faire un interview, faire un café avec machin. Bon, en fait, tu vas payer le café. Puis tu vas pas à chaque fois aller voir le média qui t'a commandé la pige en disant 3,20 € pour
le café.
Moi, je
veux ça aussi, parce qu'à chaque fois, c'est moi qui paye les billets.
Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir, avec ces trucs d'abattement fiscaux, de pouvoir compenser tous ces petits trucs que tu vas devoir payer, ou les déplacements. Tu vois, t'as pas de vraie entreprise qui va te payer le pass Navigo, les trucs comme ça. Donc, en fait, ça compense tout ça normalement.
C'est
régulièrement attaqué. Et chose très importante à savoir, que nos amis journalistes en herbe ne savent pas toujours, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir la carte de presse pour avoir ces abattements-là.
Tout à fait.
Et souvent, on se dit la carte de presse, c'est le Graal, etc. En fait, à partir du moment où tu peux montrer que tu as plus de 50% de tes revenus qui viennent de la presse, et par la presse, ça veut dire pas en auto-entrepreneur, vraiment en tant que pigiste ou autre.
Et en salaire.
Et en salaire, voilà. Tu peux avoir ces abattements fiscaux. Tu
as évoqué le fait que le modèle de la pige, mine de rien, c'est de la précarité.
Ouais.
Est-ce que c'est difficile de vivre ? Est-ce que, par exemple, il y a des journalistes spécialisés musique, qui sont salariés à plein temps et qui n'écrivent que pour un magazine. Est-ce qu'il y en a, ou est-ce que le modèle, globalement, c'est devoir aller choper un peu à droite et à gauche ?
Non, il y a plus de gens, je pense, qu'il y a plus de gens embauchés dans les magazines que de freelance qui en vivent. Ça, c'est clair et net. Donc, la pige dans le secteur musical, au début, en tout cas normalement, au début, c'est difficile. Au début, c'est précaire. Moi, dans mon cas, c'est les deux premières années, c'est précaire. Mais après, tu le sais, moi, je sortais d'école de journalisme, donc je m'étais préparé, entre guillemets. T'en as beaucoup qui ont pas la chance d'avoir cette préparation. Et donc, qui arrivent et qui se cassent le nez sur la difficulté du truc. Si la difficulté, t'en étais préparé, que t'as mis un peu d'argent de côté, tu sais que potentiellement, ça va être compliqué, que c'est un secteur pas facile, etc. T'étais juste mieux préparé, en fait. Donc, la précarité, tu t'es préparé un petit peu et tu en sors progressivement, et puis après, c'est bon, quoi.
Et j'ai un ami qui dit beaucoup, Grégoire Bellost, éminent journaliste qui travaille pour Sopress maintenant, qui disait tout le temps que c'est plus une course de fond qu'un sprint, tu vois, ce truc de pige. En fait, il faut rester là aussi suffisamment longtemps et encaisser les quelques premières années de pige où, en fait, t'es quand même un peu toujours sur la brèche, pour pouvoir ensuite peut-être profiter un peu des graines que tu as plantées. Moi, je sais qu'au début, par exemple, si vous êtes allé au Muséum d'Histoire Naturelle aux alentours de Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, au Jardin des Plantes, aux alentours de 2014, c'était sans doute moi qui vous ai vendu les tickets. Parce que je faisais ça le week-end pour compenser fait qu'en pige, j'avais pas forcément assez.
Je pense que au bout d'un moment, en plus, ce que je dis souvent, c'est que la pige, ce qui est cool, c'est que c'est pas forcément précaire, et surtout qu'en fait ton salaire, tu peux avoir du mal à le faire, mais tu peux l'augmenter. C'est-à-dire que quand t'es en CDI quelque part, ton salaire il augmente pas. Il faut demander une augmentation. En vrai, dans la pige, t'as la possibilité en fait d'augmenter ton salaire,
travailler plus, vraiment pour gagner plus. C'est très sarkozyste ça.
Bah, c'est, non, c'est travailler pour des gens plus réglo, petit à petit. En fait, ouais. Moi, c'est, je pense que je travaille peut-être un peu plus que en termes de temps qu'en 2017-18, par exemple. Mais je travaille pour des médias qui payent mieux. J'ai plus de plans en galère, etc. Et tu fais le tri aussi parce que l'expérience, parce que tu peux, tu sais que perdre un média, tu peux en récupérer un derrière, etc. T'as plus de, ouais, plus d'expérience et tu oses plus. Donc tu finis par avoir des médias qui payent mieux et donc être mieux.
On peut évoquer combien on est payé à peu près pour un article. Est-ce qu'il y a une moyenne? Est-ce qu'il y a des normes dans le métier normalement? Est-ce que c'est respecté toujours? Est-ce qu'il y a des certains qui payent mieux que d'autres effectivement? C'est...
Ben, il y a, de toute façon, on peut en parler des prix parce que les prix sont disponibles. Il y a un site qui s'appelle Paye ta pige et qui les met en ligne, donc ils sont accessibles à tous. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Il y a des médias qui payent mieux et des médias qui payent moins bien. Alors,
ça donne quoi à peu près en moyenne pour... J'imagine que c'est par rapport au nombre de signes.
Ouais, c'est alors, ouais, c'est au nombre de ce qu'on appelle en général, en tout cas dans la presse. Ouais. Là, on parle vraiment, vraiment de la presse. Ouais. C'est au feuillet. Ouais. Un feuillet, c'est 1500 signes.
Okay.
Donc t'écris un nombre de feuillets, donc 4 feuillets, c'est 6000 signes, etc. Donc t'es payé au feuillet, le feuillet, je sais pas, le minimum, je pense qu'il y a des médias qui doivent être très très bas. Moi, dans les médias pour lesquels je travaille, le feuillet, il va de 40, il va du simple au double, de 40 à 80.
Okay. Donc 1500 signes entre 40 et 80 euros.
Dans la presse en général, ça peut monter plus dans certains... Il y a des feuillets à 100, voire plus de 100 euros dans la presse féminine, ou dans la presse de mode, ou des choses un peu comme ça, même si les tarifs baissent nettement.
Je cherche un de mon côté, parce que justement, j'avais ça quand j'ai pigé, on m'avait donné le prix du feuillet.
Ouais,
et... ouais.
Ouais, donc après, il y a des médias qui... Alors ça, c'est plutôt valable pour ce qu'on appelle les pure players.
Ouais.
Donc c'est des médias qui existent uniquement sur Internet et eux souvent ils payent au forfait. Donc en fait le papier va être payé tant. Donc pour Slate par exemple c'est 120 euros net. C'est toujours en net ce que je dis. Et là ils te disent en gros bah
le papier, le feuillet ou le
papier? Non, le papier.
Le papier. Okay.
120. Et en gros ils te disent bah en fait la règle un peu c'est de faire un truc comme 5000 signes. Mais si tu veux faire plus, tu fais plus. Et en général, tu fais plus. En fait, moi, pour ces médias-là, moi, je réfléchis en termes de temps travaillé. Je réfléchis pas en termes de signes. Sinon, c'est pas du tout avantageux. Mais si tu te dis, bah, de temps en temps, j'ai le temps de bosser pour un média comme ça, j'ai une journée où j'ai moins de choses, ou même un après-midi, hein, tu sais, tu peux faire des fois certains papiers, tu peux les faire assez rapidement. Enfin, bon, faut pas travailler trop vite, faut pas être dans la productivité à tout prix. Mais si le papier, il te prend une journée. Et qu'à côté, les deux jours d'après, tu fais un truc qui est bien mieux payé, t'équilibres. Et puis en plus, souvent, en fait, ce qu'il faut trouver dans les médias qui payent moins bien, c'est bon, il y a une limite, je pense, à pas dépasser. Moi, j'ai mes les trucs que j'ai jamais acceptés, des médias comme Vice, par exemple, qui payaient très très mal ou des choses comme ça que j'ai pas voulu payer. C'était en dessous de ma limite. Il y a une limite, faut pas descendre en dessous d'un certain seuil, sinon
tu c'est extrêmement dans chronophage. L'ensemble de la profession, en
ouais,
fait.
Ouais, alors ça, elle se dévalue même sans toi. Hein. Moi, j'ai pas vu les tarifs du feuillet baisser en 10 ans, ouais. Mais ils ont pas augmenté non plus.
Simon, alors toi, tu es rédacteur en chef, c'est pas toi qui as les cordons de la bourse chez Trax. Mm-hmm.
Mais quand même.
Mais j'imagine que tu gardes un œil, justement, quand tu fais appel à des gens, à combien ils vont être payés, etc.
Bien sûr, ouais.
J'aimerais bien savoir comment ça se passe chez Trax par rapport à ça. Tu nous dis si t'as envie, combien vous payez, t'es pas obligé. Et surtout, en fait, derrière cette réflexion, c'est de savoir, parce que là, on disait combien les médias payent les journalistes.
Ouais.
Mais d'où vient l'argent des médias aussi? Parce qu'en fait, il faut aussi contextualiser par rapport à la réalité économique parfois de certains
ça,
médias.
C'est la grosse question. C'est l'argent des médias, il vient principalement de deux revenus, qui sont les ventes en kiosque et les pages de pub qui sont dans le mag. Ouais. Mais... disons que cet équilibre-là, il a changé un peu avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a des médias qui font principalement leur revenu sur la vente en kiosque, d'autres qui font plus de pages de pub. Il y a des médias parfois qui ne font que de la page de pub et en vrai qui sont quasiment pas achetés. Et il y en a qui ont moins besoin des pages de pub. À une époque, certains gros magazines, je pense à Actuel par exemple, rentraient des kilomètres de pages de pub et vendaient des milliers et des milliers et des milliers de magazines. Bon, la presse papier étant ce qu'elle est, maintenant, elles vont quand même plutôt moins. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce fonctionnement-là, c'est que selon de là où vient l'argent, tu peux faire ceci ou faire cela. C'est-à-dire que si t'es basé uniquement sur les gens qui t'achètent en kiosque, eh ben, ça veut dire qu'il faut quand même un peu les satisfaire. Si les gens qui t'achètent en kiosque, ils veulent que tu fasses que des couves sur, j'en sais rien, moi, un Mob Deep jusqu'à la fin des temps, bah en fait, tu vas essayer d'en sortir, mais très vite, vu que tu vas pas le vendre, tu vas te retrouver à faire que des couves sur Mob Deep jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est bien d'avoir à la fois un lectorat qui est fidèle et qui t'aide à faire vivre le magazine.
Pas reposer que sur lui.
Mais si tu te reposes que sur lui, tu peux aussi être un peu bloqué. Mmh. Et à l'inverse, si tu fonctionnes juste sur les pages de pub, t'es peut-être parfois un peu plus libre de ce que tu veux mettre dans le magazine, mais en même temps, faut pas que ça devienne une sorte de coquille vide sans lectorat, tu vois. Donc il y a un équilibre en fait à trouver là-dessus. Nous, sur Trax, on a une agence derrière qui s'appelle Bon Esprit, qui est une agence qui fait aussi, qui organise des festivals, qui organise plein de choses comme ça et qui bosse aussi avec des marques en marque blanche, comme on dit, ou en tout cas en marque Bon Esprit, c'est-à-dire que c'est pas lié directement à Trax. Ils rentrent en contact avec telle marque, ils organisent un événement pour telle marque. Nous, sur Trax, on ne nous en parle pas vraiment, on n'est pas vraiment lié à tout ça. Mais cet argent, il permet aussi de nourrir Trax derrière. Et ça nous permet, par certains aspects, de pouvoir faire parfois justement des couvertures, comme on parlait tout à l'heure, qui, sur une logique purement de vente en kiosque,
marcherait
n'auraient pas été autorisées, tout simplement. On avait fait, par exemple, une couverture sur Arca. Arca, pour resituer, c'est une personne trans d'origine du Venezuela qui vit à Londres et qui fait une musique très, très radicale, très expérimentale, etc. Bon, à vendre en couverture sur la base de ton lectorat qui veut que ceci ou cela, c'est pas forcément facile. Mais dans l'image, dans ce que c'est, etc., ça nous semble important. Et en fait, aussi les marques, alors il y a plein de mauvais côtés dans le fait de bosser avec les marques, mais il y en a aussi des bons. Mmh. Et les marques, qu'est-ce qu'elles cherchent? Elles cherchent la jeunesse, la modernité, un truc de prise avec son époque, etc.
Ça pousse à vous renouveler.
Donc en fait, ça te pousse beaucoup plus aussi à mettre peut-être des artistes plus jeunes en couverture, parce qu'en fait, quand t'as des marques derrière qui vont contribuer à financer le magazine, elles ont envie de parler plutôt des jeunes mais que des vieux, etc.
Sous quelle forme les marques elles participent, elles contribuent au magazine, parce que il y a le truc
classique, une page de pub. Hein.
Ouais, une page de pub. Mais après, il y a d'autres formes, mec, aussi. Il y a le publi rédactionnel.
Oui, mais ça, je pense que, enfin, le publi rédactionnel dans les magazines SP, c'est peut-être pas une.
Il y en a moins. En fait. C'est
juste, tu peux nous rappeler ce qu'est, pour ceux qui connaissent pas le publi rédactionnel.
Le publi rédactionnel, en gros, c'est une marque sort tel produit et tu vas faire un article qui, en fait, n'est pas un vrai article parce que tu ne l'aurais pas fait normalement, pour lequel tu vas dire ce produit est vachement bien, etc. En fait, tu t'écris une sorte de moitié pub, moitié article. Et dans la loi, tu es censé préciser que c'est un publi rédactionnel. Nous, dans la manière dont on travaille avec les marques, alors ça peut prendre la forme de, effectivement, très simple, une marque achète une page de pub tant dans le magazine et ça participe à financer le magazine. Ça peut être aussi des choses qui sont liées à l'image, c'est-à-dire que le magazine, en sortant, en étant comme si, on essaie de faire en sorte qu'il soit assez beau, etc., génère une sorte d'image. Parfois, les marques, elles ont un problème, c'est qu'elles sont pas assez cool ou qu'elles ont un problème d'image. Et donc, en fait, elles ont envie d'être associées à un magazine qui serait censé être cool. Donc elles viennent te voir et tu vas, par exemple, je sais pas, organiser un événement pour cette marque-là, dans lequel peut-être le nom de Trax apparaîtra ou n'apparaîtra pas, et qui va générer du coup de l'argent. Qui sera
l'événementiel peut être aussi une source de revenus.
Ça peut être de l'événementiel, ça peut être des pages de pub, ça peut être parfois ça peut même être aussi des choses qui peuvent ressembler à du publi rédactionnel, mais qui n'en sont pas vraiment. C'est-à-dire si la marque a, je sais pas, imaginons une très belle histoire ou un truc vraiment intéressant à raconter, peut-être qu'en fait tu vas avoir envie d'écrire là-dessus et la marque va être ultra contente et va te permettre de pouvoir, par exemple, financer ça en payant, par exemple, la personne qui aura écrit cet article beaucoup mieux que si c'était une pige normale. Et en fait, c'est un sujet que tu aurais peut-être quand même fait, quoi qu'il arrive. Enfin, voilà. En fait, il y a plein de
variantes.
Ouais, il y a une sorte d'échelle de variantes là-dedans.
Est-ce que ces marques, parce qu'on, là, on parle de musique avant tout, est-ce que ces marques, ça peut être des labels, des artistes eux-mêmes? C'est-à-dire que.
Alors, ça peut, mais en fait, la vérité, c'est que les labels et les artistes n'ont pas beaucoup d'argent quand même.
Mais demain, un artiste peut dire à Trax, faites un article sur moi, je vous paie? C'est possible?
Oui, ça peut arriver. C'est des choses qui peuvent se faire. On le fera que si c'est des artistes qui nous intéressent quand même un minimum. Ah, oui. C'est-à-dire qu'on le fera pas si c'est des artistes qui nous parlent pas du tout, qui sont contraires à nos valeurs dans certains aspects, etc. Mais oui, il y a des systèmes de partenariat dans lesquels la personne qui écrit l'article se retrouve plus payée par le label que par le magazine.
Parce ça, que c'est pas fait. Et ça, c'est dans tous les magazines. C'est considéré comme de la corruption, ça, tu vois.
En fait, c'est des artistes que t'aurais quand même traités, etc. Enfin, ça peut. En fait, ce truc de corruption, il marche que s'il y a vraiment des artistes. Enfin, pour moi, la corruption, ça va être vraiment si c'est un artiste que t'aurais jamais voulu traiter et moyennant finance, ouais. Ok, je le traite et ça passe. Etc.
Ça vous le faites pas ?
Non, ça on le fait pas. Non.
Ça se voit en plus.
Ouais.
En plus, ça, c'est vrai que enfin, c'est vrai que ce genre d'article forcé, ça se voit. Ouais.
Et donc on a parlé des sources de revenus et ça vous permet en gros ça de proposer à vos pigistes, etc. J'imagine si Brice bosse avec vous, c'est parce que la paye est correcte et donc entre les 40 et les 80 euros ce qu'on évoquait tout à l'heure pour le feuillet, c'est ouais. À peu près ça, vous inscrivez là-dedans quoi.
C'est ça, nous on s'inscrit là-dedans, mais après on il y a aussi des c'est ce que Brice disait, il y a des questions de format, c'est-à-dire que nous on essaie au maximum de laisser beaucoup de place à l'écriture et au volume et on paye au volume, c'est-à-dire que du coup en fait, si t'as plutôt que 5000 signes, 25000 signes pour écrire un article et que c'est payé aux signes, bon bah peut-être que c'est là-dessus que tu peux plus t'y retrouver. Ça c'est plus Brice qui pourrait nous dire.
C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Ouais. C'est vrai, c'est ça.
Et aussi il y a un truc de ce que tu demandes, je pense aux pigistes, c'est-à-dire que bah il y a des magazines qui vont te dire bah là je voudrais que t'écrives une page et je veux que tu fasses 8 interviews pour cette page. 8 interviews, ça veut dire qu'il y a 8 rendez-vous, faire 8 discussions, faire 8 dérushs, etc. Mmh. Donc en fait, même si c'est bien payé, si tu mets tout
ça prend trop de temps. Voilà.
Ouais. On essaie de pas tomber, en tout cas chez Trax, dans un excès de zèle de l'interview, surtout sur un format qui ferait 25000 signes. Dans ce cas-là, s'il faut 8 interviews pour une page, ça veut dire quoi? Il en faut 35 pour 25000 signes. Enfin, en fait, on essaie de pas tomber non plus dans ces pièges-là.
Quand un média paye un peu moins bien, faut que ce média, il apporte aussi autre chose. Je dis pas, alors faut faire attention, le métier passion, etc. Faut pas non plus, pas là-dedans. Hein. Mais faut quand même que le média, effectivement, propose, déjà, soit ouvert aux propositions. C'est-à-dire que, voilà, on puisse lui vendre des sujets, qu'il nous fasse des commandes aussi. Qu'il y ait un échange. Que ce soit pas unique, quoi. Que ce soit pas à sens unique, quoi. Faut aussi que le média, effectivement, propose du format long. Parce que finalement, écrire un papier de 15 000 et de 25 000 signes, en vrai, le temps passé dessus, c'est pas, il n'y a pas une grande différence. La différence, le temps passé, il se situe pas là, il se situe plutôt sur le travail en amont, et l'écriture globalement. Honnêtement, 10 000 signes, si t'es lancé vraiment dans l'écriture de ton papier d'une traite, ça peut être assez rapide, et tu vas gagner beaucoup de feuillets. Tu vois, entre 15 000 et 25 000, t'en as 6 et demi, quoi. Donc il faut que le média, faut que les gens dans les médias soient cool aussi. Faut pas que t'aies un chef qui exige. Bon, en fait, les médias qui payent moins bien, faut pas non plus qu'ils soient trop exigeants.
C'est-à-dire en fait, c'est ça le truc. Ouais.
Ouais. Non, mais c'est ça, c'est vrai, parce que tu vois, je voyais le témoignage. Le témoignage d'une pigiste, je voyais, je la comprends, qui disait, faut que ce soit 70 euros le feuillet, etc. Ou alors on arrête ce que je disais tout à l'heure, on arrête les forfaits à 120 euros, etc. parce que c'est des papiers qui prennent 3, 4, 5 jours. Je l'ai pas dit évidemment, voilà, mais t'as un peu envie de dire, bah si tu passes 4, 5 jours sur un papier payé 120 euros, c'est un peu ton problème aussi, tu vois. Ouais. C'est facile à dire quand t'as du boulot, etc. C'est cool. Quand t'es pigiste débutant, c'est plus compliqué. Ouais. Mais il faut trouver un équilibre. Ouais, faut trouver un équilibre entre les médias qui payent bien. Et les médias qui payent moins bien, sur lesquels tu vas passer moins de temps, mais tu vas quand même faire un boulot correct, et chez lesquels tu vas trouver autre chose, du format long, tu vas pouvoir t'amuser, des commandes, moins de temps passé à chercher des sujets, proposer, à prendre des refus, des choses comme ça. Donc, t'équilibres comme ça. Et finalement, moi ça va, hein, c'est cool.
Donc, non, mais t'as des médias qui, du coup, jouent ce truc-là en se disant. Volontairement, je vais demander des papiers archi mal payés, mais qui demandent un taf.
Ouais.
Tu vois, il y a des trucs qui sont. Enfin, nous, on connaît ça dans la tech. Hein, les gars qui te demandent de faire un benchmark entre 8 cartes graphiques, tu vois, où il faut du coup les tester une par une, et ça te prend un temps incroyable parce que tu peux pas comprimer ça. et qui à la fin te paye des copecs et tu fais bah pourquoi je me fais chier en fait.
Ouais. Non mais le problème c'est que c'est difficile quand t'es pigiste de te faire une place. Alors bon, moi je connais surtout la musique. Fin. C'est difficile donc forcément t'es amené à accepter des choses. Mm. Donc c'est difficile de dire à des jeunes journalistes qui se lancent là-dedans de pas accepter certaines choses.
Ouais.
Mais en même temps, je pense que c'est vraiment important de le faire parce que il y a d'autres moyens d'écrire en fait. Il y a d'autres endroits où tu peux écrire qui sont plus respectueux quand même.
Donc, là, je parle vraiment de mon cas à moi. Il y a des trucs que j'accepte qui sont moins payés, mais qui ouvrent un potentiel de bosser ensemble plus oui, régulier aussi. Et du coup, tu te dis ok. Je prends moins, si c'était du one shot pur, je prendrais même pas. Mmh. Mais là, le fait que ça ouvre potentiellement une collaboration à moyen et long terme, ok, on va baisser le truc, mais on s'y retrouve sur la suite. Quoi.
Tu t'ouvres des possibilités et en fait, au bout d'un moment, on parle souvent de la sécurité de l'emploi chez les pigistes. On dit qu'il n'y a pas de sécurité de l'emploi et en fait, bah, moi j'ai un truc comme 9-10 employeurs ou un truc comme ça. Si j'en perds un, en vrai,
c'est pas grave.
En fait, le fait d'avoir ouvert pas mal de collaborations, alors certaines qui payent moins bien, d'autres qui payent beaucoup mieux, ça fait qu'en fait je peux compenser, tu vois.
Ouais.
Et même si je perds un média, si un média qui paye bien, par exemple, va pas trop me faire bosser pendant un mois, bah je vais me mettre un coup de collier, je vais faire un peu plus des médias qui payent pas très bien. C'est pas grave, tu vois, j'ai toujours ce truc. C'est pas des bouche-trous non plus parce qu'il faut entretenir la collaboration. Mais tu peux toujours
réorienter.
Comme tu le disais aussi, et c'est à mettre à ton crédit, hein, t'as réussi à constituer un réseau qui te permet d'être dans cette position-là.
Oui, au bout d'un moment, oui, je suis pas le seul. Hein, mais
faut le travailler, ça, hein, clairement.
Ouais. Bah la pige, ouais, c'est un milieu
c'est du mercenariat,
début, difficile. Hein. Et puis quand on y arrive, c'est cool. Hein. Moi, j'aurais du mal à y retourner en rédac pour le moment. Bah, on verra.
Et c'est assez agréable aussi, je trouve, dans la pige, d'être en contact avec plein de gens différents. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas toujours les mêmes interlocuteurs qui ont leurs défauts et leurs qualités. C'est-à-dire que, effectivement, ça rejoint un peu ce que tu disais. C'est-à-dire que si à un moment, la personne à qui tu dois commander les piges est un peu trop chiante, bon, bah, tu vas en commander.
Tu passes ailleurs.
Et puis,
tu vas bosser un peu moins, tu vas moins te confronter.
Il y a un truc satisfaisant aussi, c'est que tu peux être d'un peu toutes les aventures éditoriales. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau magazine qui se lance, qui a l'air vraiment trop bien. En fait, rien ne t'empêche d'aller écrire dedans.
De fou.
Ça, c'est cool. Alors que quand t'as un peu une sorte de casquette de moi, je suis de cette famille éditoriale là, bah c'est plus difficile de s'il y a un truc cool ailleurs d'aller y participer quoi.
T'es moins, il y a des problèmes quand même en fait dans la presse musicale. Il y a des titres qui sont en mauvaise forme, etc. Finalement, le pigiste, t'es pas, enfin, faut pas te dire que t'es dépendant de ça. Justement, faut te dire que bah t'es extérieur à ça et qu'en fait, si le média se casse la gueule,
toi tu peux un peu plus facilement te reconnaître.
Toi, tu peux même anticiper. En fait, et quand il s'est cassé la gueule, t'es déjà ailleurs. Enfin, entre guillemets, faut pas.
Mais
c'est un peu cynique de dire ça, mais d'un côté, c'est une forme de sécurité de l'emploi aussi. Et quand t'as ce réseau-là et que t'as cette méthodologie, parce que la pige c'est une méthodologie. Et au final, oui, si tu réfléchis comme ça, logiquement.
Alors là, moi, j'ai une question justement pour toi qui est rédac chef. Comment, si tu t'appuies que sur des pigistes, comment est-ce que tu t'assures que la couleur de ton magazine est respectée? Parce que si tu prends que des mecs qui bossent en one shot, en fait, c'est très dur d'avoir un truc homogène de.
Bah, en fait, il y a plusieurs trucs. C'est que des gens bossent pas que avec des pigistes. On a quand même des gens qui écrivent régulièrement. Moi, j'écris beaucoup aussi dans le mag, donc ça participe quand même de tout ça. Ensuite, c'est des pigistes, mais c'est des pigistes réguliers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant que ça, en fait, de pigistes
d'appel
qui viennent faire
plume,
un one shot et qu'on ne revoit plus jamais après. C'est-à-dire que si ça s'est bien passé, en fait, assez rapidement, soit on leur reprendra des sujets qu'ils nous auront proposés, soit on leur en proposera directement.
Mais sur le ton à employer, tu vois, la façon de structurer les papiers, est-ce que du coup, tu as des guidelines pour les nouveaux arrivants ou, tu sais, par exemple, je sais pas, dire, on veut un truc incarné, donc il faut que tu parles de ton expérience.
Il m'arrive d'expliquer sur certains sujets où effectivement, je me dis ça par rapport à Trax, c'est un sujet qui peut-être devrait être traité un peu comme ci ou un peu comme ça. Il m'arrive de dire effectivement à des nouveaux pigistes, ça c'est un type de sujet qu'on a souvent fait. Tu vois, je sais pas, par exemple, nous chez Trax, on fait beaucoup de sortes de portraits de clubs, c'est-à-dire on aime bien prendre des clubs, notamment en province, des clubs un peu, je sais pas, t'as grandi, imaginons, à Grenoble, tout le monde à Grenoble connaît ce club culte où t'es allé quand t'étais au lycée, on va raconter ce club-là, et c'est quasiment un portrait dans le sens où c'est toujours, il y a des sortes de passages obligés, il y avait le DJ résident, le videur, machin, et tous ces gens-là, c'est cool de leur parler. Bah ça, parfois, typiquement, quand on me propose un sujet qui est dans cette vibe-là, j'ai tendance à renvoyer à des papiers qu'on a déjà écrits dans le genre pour que les pigistes puissent un peu lire la manière dont on traite ce type de sujet, sans être non plus obligé de faire exactement la même chose, mais voir un peu rentrer dans l'idée l'idée de ce type de papier, quoi. Donc j'essaie de faire un truc un peu comme ça. Après, en général, on va pas forcément lancer des pigistes direct sur des énormes sujets, parce que c'est un peu risqué pour eux comme pour nous, quoi. Donc ça va souvent être d'abord plus des petits papiers, et si ça se passe bien et qu'on voit même qu'en termes de style et d'approche, autant du journalisme que de la musique, ça colle, ça peut aller derrière sur des trucs plus gros, quoi.
Est-ce que, juste pour préciser, parce que Trax, c'est aussi un site web, etc. Ouais. Et c'est vrai que, par exemple, quand on parlait d'origine, de sources financières, là, c'est encore autre chose, j'imagine, pour le site web. La rédaction en chef du site web, d'ailleurs, c'est toi aussi qui t'en occupes, c'est commun ou pas?
C'est un peu flottant en ce moment, parce que la personne qui s'en occupait est partie. Mais disons qu'on fait ça de plus en plus de manière collégiale. En fait, les équipes de Trax ont pas mal changé ces derniers temps et ça crée une sorte de vibe qui est assez cool, qui est beaucoup plus jeune. Et on essaie de plus en plus de désenclaver le print, le web, etc. Okay. Notamment pour aller vers plus de formats sur les réseaux sociaux directement. Mmh. C'est-à-dire sortir de cette idée de il y a les réseaux sociaux qui seraient un relais du site, mais en fait, les vrais sujets, c'est sur le site. Mmh. Donc, on essaie de trouver des formats qui nous permettraient, soit en vidéo, soit dans des trucs de slider sur Instagram ou des choses comme ça, de raconter un peu les histoires qu'on aime bien raconter, mais directement, par exemple, sur notre compte Instagram ou des choses comme ça.
Et du coup, ça serait des papiers sur Instagram que tu retrouverais pas sur le site ?
Non, ça pourrait, mais c'est aussi, par exemple, imaginons... on va raconter l'histoire d'un club comme on parlait là. Et en fait, on va sortir certaines anecdotes pour raconter un peu différemment. Ouais. Ou alors, il se trouve qu'il y a une personne qui a pris des photos incroyables de ce club-là. Donc, on va faire un focus juste sur cette personne-là et sur la série photo qui va avec. Enfin, en fait, trouver des sortes de manières de décliner un sujet qui serait un peu le vaisseau mère, qui serait le gros papier écrit sur le sujet. Mmh. Et après, décliner ça sous différentes formes. Et donc, ça fait que les moments où on fait des réunions un peu éditoriales sur tout ça sont beaucoup moins print ou web ou réseaux sociaux,
mais beaucoup plus
il y a ça c'est trop cool, comment on le traite, vu le sujet c'est plutôt Instagram, ça c'est plutôt site internet et machin. Donc en fait ça devient plus une sorte de rédaction plurimédia laquelle ça part dans un canal ou dans l'autre, quoi.
De toute façon, Daz, on reparlera à l'occasion dans cette émission, peut-être avec une approche un peu plus web, effectivement, de journalisme musical, ça. J'ai lancé une invitation, il est ok, il faut que ça se fasse petit à petit, mais parce qu'en plus c'est très intéressant, c'est un média très mainstream, c'est avec Aurélien Chapuis qui gère aujourd'hui la musique chez Combini. Mm-hmm. Et j'ai envie chez Combini on parle de musique, par exemple, tu vois. Mm-hmm. Quand t'es un gros média comme ça. Bon, il est ok, on a du mal encore à se caler. Mais on va essayer de faire ça. Aurélien, on compte sur toi. Viens nous voir. On termine peut-être juste, pas une vraie partie, mais quelques petites questions. C'est, moi, quand j'ai des mecs qui écrivent tous les jours sur la musique, qui regardent tout ce qui se passe, un bien grand mot, mais en tout cas, qui essayent de revenir sur des trucs anciens, sur des trucs nouveaux, etc. Vous avez forcément un peu un regard global sur ce qui se passe dans la musique ces derniers temps. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a excité ces 10 dernières années, disons, ces 5 dernières années, peut-être un peu plus récemment? Quel grand mouvement vous pouvez observer, même éventuellement? Est-ce qu'il y a des trucs qui ressortent comme ça, si j'évoque tout ça?
Moi, les trucs qui m'excitent un peu, alors même plus dans l'ultra récent, mais j'adore toute cette vibe un peu hyper-pop dont on parlait tout à l'heure. Et je vois en plus que ça prend de l'ampleur mois après mois et que ça synthétise à la fois la pop, le rap, des éléments qui viennent du rock, des éléments même qui viennent du college rock ou des trucs très américains, limite teen movie, etc.
Et des esthétiques... Y compris du kitsch et du mauvais goût.
Ouais, complètement, ouais.
Ça, c'est un truc que je trouve qui est assez représentatif aussi.
C'est trop bien. Et justement, il y a ce truc de... Enfin, les jeunes générations, quand elles arrivent avec une nouvelle musique, il y a toujours un truc qui, pour les générations précédentes, est... de mauvais goût ou kitsch, et c'est aussi comme ça que tu t'affirmes un peu.
Ouais, bien sûr. Et quand je dis mauvais goût, en fait, c'est que c'est jugé en fait à un moment donné, c'est de mauvais goût.
On se comprend.
Que c'est variable en réalité.
Bien sûr. Il y a ça en tout cas dans l'hyperpop, j'aime bien cette vibe, même esthétiquement, même visuellement parlant, il y a des codes qui qu'on retrouve dans des séries comme Euphoria, des choses comme ça, qui sont assez qui sont assez dans leur époque en tout cas. Et il n'y a pas beaucoup de genres qui sont autant, autant vraiment en plein dans leur époque que ce qui se passe en ce moment du côté de l'hyperpop. Ça, j'aime bien. Et après, bah, y a toute cette énergie en ce moment dans le rap avec toute la nouvelle scène qui a un nombre de noms qui ne cesse de changer tous les jours, mais la New Wave ou le Digicore ou le... ou tous ces trucs-là.
Jersey.
Ouais, voilà. Et en fait, j'ai l'impression que, franchement, enfin, tout le monde a, selon la génération dans laquelle on a grandi, tout le monde a sa conception de l'âge d'or du rap. Mmh. Et en fait, je suis presque sûr qu'il y a des gens un jour qui diront, mais c'est 2023, l'âge d'or du rap. Mmh. Parce qu'en fait, là, il y a des trucs qui sortent tout le temps. Et il y a des concerts qui sont blindés d'artistes qui sont pas du tout connus par les générations précédentes, mais qui font des salles combles, des grosses salles en plus à Paris. Et je trouve que toute cette vibe qu'il y a en ce moment autour du rap est ultra, ultra intéressante. Et d'ailleurs, il y a pas mal de ponts avec l'hyperpop à ce niveau-là. Enfin, tout ça, je trouve ça tout ça ultra enthousiasmant.
Ok. Bah, je suis assez d'accord sur les deux, hyperpop et rap aussi, en fait.
C'est les deux gros trucs du moment.
Ouais, ouais, c'est quand même les deux gros trucs du moment. Et surtout, c'est la capacité qu'a le rap à se renouveler, à se réinventer. Enfin, j'ai l'impression, même s'il y a des gens qui expliquent que le rap regarde beaucoup en arrière, surtout qu'il y a, bon, il y a quand même encore une grosse scène un peu aux esthétiques old school, boom bap, etc. Mais je trouve que quand même globalement, plus que beaucoup d'autres musiques, le genre dans son ensemble regarde quand même vers l'avant en permanence et change et se renouvelle. Alors il y a bon les gens qui aiment moins, des gens qui aiment pas, mais c'est une musique qui avance quand même et ça s'entend d'année en année quoi. C'est enfin le rap c'est vraiment fascinant à observer depuis toujours, mais ça continue en fait. C'est-à-dire que cette fascination qu'on pouvait avoir pour cette musique mouvante où tu sais que le son il est sorti en 86, puis en 92, puis en 95, c'est pas le même. Bah là c'est pareil en fait. C'est sensiblement la même chose et c'est assez fou d'observer que cette musique a 50 ans maintenant cette année. Et continue d'avancer à cette vitesse-là sans discontinuer. C'est le gros truc que je retiens de ces 10 dernières années.
Ça, c'est un peu les... pas les tendances, mais les mouvements, disons. Mais plus de l'ordre de l'esthétique que vous pouvez observer. Est-ce qu'il y a d'autres choses, que ce soit sur les aspects business, sur la manière dont on consomme la musique, sur le live, j'en sais rien, d'autres trucs qui pourraient vous venir en tête, d'autres angles comme ça sur la musique, des trucs marquants de ces 5-10 dernières années?
Bon, en fait, moi j'ai l'impression de faire un peu du taf entre guillemets à l'ancienne, de pratiquer du journalisme un peu comme on aurait pu faire il y a 20 ans. Ouais. Donc résultat, j'en ai pas. Oui, évidemment, il y a la question du streaming est évidemment le truc presque le plus important aujourd'hui, quoi. Enfin, la manière dont la musique arrive aux oreilles des gens, ce qui est quand même un peu le but de la musique, quand même. et donc ce modèle économique qui se trouve tranquillement, et pas sans casse d'ailleurs, c'est très intéressant à observer, oui, mais c'est un peu une porte ouverte de le dire.
C'est une réalité.
Oui, il y a tout qui évolue beaucoup par rapport aux plateformes de streaming, par rapport aux réseaux sociaux, au fait que les artistes peuvent être leurs propres médias et faire eux-mêmes leur propre promotion, etc.
Point important, effectivement.
Quelle est la place du débat autour de la musique quand c'est un artiste qui fait lui-même sa promotion et qui parle lui-même de lui. Donc voilà, forcément, tous ces trucs-là brassent pas mal de choses. Mais après, je pense que les médias restent... on voit souvent quand on parle avec autant des boîtes de production que des boîtes de communication, que des boîtes de ceci, de cela, on voit quand même qu'en général, le discours qui ressort, c'est pas facile quand même de faire un média. Y a beaucoup de gens qui vont te dire ouais, mais par contre, on aimerait bien pouvoir être aussi un média. Tout le monde veut être un média maintenant. Ouais.
Ça coûte beaucoup d'argent.
Et ça coûte de l'argent. Et il faut être connecté en fait avec les gens des médias. C'est-à-dire que si tu mets juste n'importe qui pour faire ton média, bah peut-être ça va pas trop prendre. Et je vois quand même que effectivement, tout le monde se dit bon bah maintenant, je vais faire mon média parce que c'est facile de faire mon média. Ça prend pas toujours et ça prouve aussi que mine de rien, c'est bien d'avoir à des gens qui ont une sorte de savoir-faire dans les médias. Et c'est pas une question d'âge ou de position, c'est vraiment qui ont appris à penser la culture avec un point de vue média et un prisme qui est celui des médias, quoi.
Le rap, pour ça, est vachement intéressant parce qu'il y a une culture journalistique dans le rap qui est assez spécifique. Le pour nous, par nous, en fait, qui est une chose qui est un peu business, a beaucoup déteint sur la manière dont, dont les médias rap se sont construits, etc. Et donc le rap aujourd'hui, dans les médias, a un peu ses propres codes qui sont un peu en dehors de la culture journalistique dans laquelle on est peut-être plus, qui est une culture un peu plus classique. Là, dans le rap, il y a quand même un mélange des genres qui est énorme dans le journalisme.
Ça peut être un souci, justement.
Ça peut être un souci, bien sûr.
Il y a des médias rap qui critiquent même pas la musique.
Ouais, complètement.
Ou les tendances, ou,
C'est des canaux promotionnels, en fait.
Ouais, c'est ça. Et en fait,
pas tous. Mais...
Se dire que la vraie critique de la musique rap, finalement, va se retrouver dans des médias généralistes parce qu'ils en dépendent pas. Du rap et de cette collaboration permanente entre artistes, maisons de disques et médias, moi perso ça m'attriste un peu, tu vois, de me dire que je trouverais des critiques un peu plus pas acerbes mais en tout cas plus sévères, mais dans le bon sens,
exigeante,
du terme, plus exigeante, voilà, dans des médias généralistes plutôt que dans des médias rap. Ça m'emmerde un peu parce que je me dis ça devrait, justement, avec ce délire de pour nous par nous, bah on devrait être les premiers à être critiques sur notre propre...
C'est que tout le monde va dans le même but, c'est-à-dire faire, enfin je schématise beaucoup, mais si le rap se vend bien, tout le monde est content, quoi.
Ouais.
D'ailleurs tout est bon pour faire de l'argent dans le rap aujourd'hui, tu vois, même les pires saloperies.
Puis dans tous les domaines, et on doit l'appliquer aussi au rap, les gens du rap doivent en avoir conscience, l'entre-soi, c'est pas toujours très bon.
Ouais,
hein, l'endogamie, d'être toujours dans le bon sens. Il y a besoin de s'ouvrir un peu parfois.
Ouais, complètement. Ouais, complètement.
Mais quand il y a eu des volontés d'ouverture qui n'ont rien donné parce qu'à l'extérieur, personne ne voulait aussi ouvrir. Donc, le résultat, c'est vrai, voilà, il y a ce phénomène de repli qui se sent encore.
Ça vient pas de nulle part.
La méfiance du rap vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des institutions,
du
pouvoir politique, etc., est naturelle et médiatique. Et naturelle parce
chaque fois que tu avais un rappeur à la télé, tu savais.
On les a massacrés pendant des années, évidemment, derrière.
Je pense que c'est bien de trouver un juste milieu, peut-être, entre le mélange des genres et une culture journalistique qui est empreinte d'une déontologie, qui c'est pas un gros mot, la déontologie, c'est pas uniquement de la morale, on n'est pas des pères la morale si on parle de déontologie, donc c'est bien d'en ingérer un petit peu plus, quoi.
Puis en plus, je pense que ce qui se passait beaucoup pour le rap à l'époque, c'est que t'avais des rappeurs qui venaient sur des plateaux télé où t'avais que des gens qui venaient de la culture rock, qui n'en avaient absolument rien à faire de cette musique qu'ils estimaient être une sorte de sous-musique.
Ouais.
Sauf qu'en fait, maintenant, dans les rédactions, tout le monde vient plutôt de la culture rap. En tout cas, tout le monde a beaucoup écouté de rap dans les rédactions de médias, on va dire, pas trop vieux, quoi. Donc, les rappeurs, en vrai, ils arrivent un peu en terrain conquis. Tu vois, ils arrivent avec des gens qui ont les références, qui les respectent, a priori.
L'échange est possible.
Voilà, on parle pas de la télé grand public, TF1, heure d'audience, machin, mais dans la presse, on va dire un peu spécialisée, en vrai, tout le monde a à peu près les références, quoi.
Merci beaucoup, les gars. Je suis en train de m'étouffer depuis tout à l'heure, déjà. Je crois qu'il est temps de terminer cette émission. On finit évidemment avec les recommandations.
Oui.
C'est notre grand classique. On est quatre, est-ce qu'on les laisse juste le faire? Nous aussi on met un petit truc au rapido, je sais pas. Bon, commencez en tout cas, Brice, Simon, est-ce que l'un de vous a envie de faire écouter un truc? Brice par exemple, allez, allons-y.
Moi c'était le morceau Puzzle de The Free, qui est un rappeur français, voilà, que j'ai découvert il y a peu, et j'ai réécouté ce morceau aujourd'hui, et c'est le dernier track de son album
Filament Bleu.
Filament Bleu, merci.
Filament
j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce titre. Voilà.
Et c'est sorti en 2023, c'est très récent, 24
février. Ouais,
absolument.
Ouais.
Eh ben écoute, Puzzle de The Free.
Paradis affiche complet, en enfer on se complaît, dans le cœur un grand vide à combler. Hier je suis né, demain je suis mort, entre les deux j'affronte des vents contraires. Les gouttes de pluie sur mes épaules, je les sens à chaque fois que mon crayon sommeille. Quand j'avance d'un centimètre vers le but, photo je te jure je vois des rayons de soleil. Bien sûr qu'il me faut les thunes, bien sûr que je maudis ce foutu rap, à qui j'ai bite grave mes études, là je dois cracher des tubes. Non, quatre fois non, autant me faire écraser les burnes. Option à être vite que je dois multiplier, j'ai plus qu'à prier, j'aperçois les grands et les plus petits vriers. Les
gosses sont plus vite.
Ouais, chouette, hein.
C'est marrant, la voix est mixée vachement en avant, plus encore c'est que c'est marquant, je trouve.
Mm-hmm.
Ok, bon bref.
Faudra lui demander, faudra l'inviter.
Ouais. On va faire ça, effectivement. Donc c'était, je rappelle juste, c'était The Free Puzzle.
Puzzle.
Tout à l'heure, on parlait des trucs cool qui se passent en ce moment dans la musique. Du côté de la musique électronique, il y a pas mal de... une sorte de revival un peu jungle, drum and bass jungle, etc., qui revient beaucoup. Et il y a une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Nia Archives, qui est une artiste anglaise d'origine jamaïcaine, si je dis pas de bêtises, et qui mélange un peu à la fois des musiques d'héritage jamaïcain, mais en fait surtout beaucoup de jungle, de drum and bass, avec un truc beaucoup plus pop. Il y a des moments où elle chante et ça pourrait quasiment devenir du Georgia Smith.
Okay.
Et elle a sorti un projet il n'y a pas longtemps que j'ai bien aimé. Il y a un morceau qui s'appelle Conveniency, par exemple, que j'ai bien aimé.
Très bien. Eh ben, New Archive, Conveniency. C'est parti.
2 minutes 22 le morceau.
C'est court. Tous les morceaux sont courts comme ça. Ouais.
Your homie, I ain't just gonna let that go. Don't think you can just call me because you're feeling lonely. I can't always be
cool.
Option number three.
C'est très UK en effet.
Ouais,
complètement.
Et bien frais. Pour l'été, tu as raison, ce sera parfait. Daz, je sais que tu avais choisi aussi. Tu restes sur ton choix initial ?
Non, est-ce que.
C'est vrai, t'as envie de changer ?
Bah pourquoi pas ? Je me dis. Bah tiens, tu sais quoi ? Non.
Non.
On part sur le tien parce que ça.
C'est vrai, tu veux encore un peu de temps ?
Non, vas-y, il y a la place pour 4.
Allez, allons-y.
Ok, bah alors moi j'avais un truc. Ouais, très à l'ancienne. C'est un groupe d'Auckland. Tower of Power. Donc c'est soul funk années 70.
Très bien.
Et le morceau s'appelle Sparkling in the Sand et la particularité c'est qu'il a été samplé pour l'album de Roth, le premier album de Roth, sur un morceau très poétique qui s'appelle Je m'en bats les couilles d'être une star. Mais en fait ce qui est marrant c'est que se dire que effectivement il y a des morceaux de Roth qui samplent des trucs comme ça, tu te dis ah ouais, en fait les beatmakers étaient très forts. Alors, le beatmaker c'est Yvan, donc Peacemaker qui est un Suisse qui a plutôt bien taffé. Je sais pas si Roth est au courant d'où vient l'inspiration.
Est-ce qu'il connaît Tower of Power, le morceau Sparkling in the Sand?
Mais en tout cas le morceau est incroyable.
Et ben on l'écoute.
Et waouh, comme il dit. Donc c'est toute cette flûte là qui a été reprise et ça marche. Hein.
J'avance un tout petit peu.
Oui, ah, après ça dure. Là il y a. Ça dure 6 minutes, hein. Moi je fais pas des morceaux sans troisième couplet.
Tu mets 5 morceaux de New York.
Très bien ça aussi, Daz.
Ah oui, c'est très cool.
Jusque là, nous avons une sélection de qualité. Et il faut que j'aille. J'ai envie de mettre, mais en fait je sais pas quel morceau. Mais en tout cas, d'un rappeur qui s'appelle Ice Cold Bishop, qui vient de sortir un projet, tu vois, ça date du 24 mars 2023.
Hey.
Et l'album, donc c'est Generational Curse. Et tout l'album est trop bien. Je sais plus qui c'est, un de vos compatriotes, non, c'est pas le bon terme, mais quelqu'un sur Twitter, un journaliste confrère. En tout cas, qui l'a suggéré. Je suis allé par curiosité écouter et j'ai trouvé cet album assez ouf. Et allez, tiens, je vais mettre ce morceau-là. Donc, Ice Cold Bishop, et là, c'est Dickie's Suit.
C'est une vibe à la Danny Brown un peu.
Complètement.
Ouais. Grave. Il est de où, tu nous as dit ?
Eh ben, il est de New York, il me semble.
Bizarre, ouais. C'est ouais. Bizarre, on dirait pas comme ça.
Et tu vois, en fait, j'avais du mal à choisir un morceau parce que ses flows sont extrêmement variés, ses tonalités sont très... Oui. Parfois, il va dans les aigus, il revient complètement dans les graves, il en joue, c'est très théâtral, entre guillemets. Ouais. Parce que j'ai toujours adhéré dans le rap américain. Et ce qu'on retrouve un petit peu moins en France, et j'ai toujours regretté ça, ce côté jouer beaucoup, ne pas hésiter à être théâtral.
Ça part chez les gros vendeurs, en tout cas, ouais.
Tu vois, à la limite, je pense à l'ancienne, à Deux Balles de Nègre, des trucs comme ça, où là, ça jouait vachement sur les aigus, sur sa musique.
Ça jouait que là-dessus, d'ailleurs. Enfin, Deux Balles surtout, parce que Deux Nègres était un peu plus. Non, mais, Cobaladé.
Je suis d'accord. Oui, mais avec, tu sais, où tu t'en sers.
Dans un truc.
Mais oui,
qui peuvent s'amuser. C'est vrai.
Mais globalement,
le mec du 80.
Despo aussi.
Despo aussi, ouais.
Et en tout cas très difficile de choisir parce que c'est extrêmement varié, mais globalement même les prods sont trop cool et c'est aussi pareil très varié. Ice Cold Bishop, l'album s'appelle Generational Curse, c'est très très cool.
Eh ben dis donc, mais quel reco incroyable, encore une fois.
Écoute, c'est le moment de remercier Brice Miclet, Simon Clair pour leur présence, pour leur reco, pour tout, pour leur vie, pour être tout. Là, pour être vivant.
Leur vie, leur
avec plaisir.
Merci les vivants.
C'est cool. Absolument. Merci les gars.
De rien.
C'était super cool. Est-ce qu'on rappelle aux gens qu'il faut s'abonner, qu'il faut acheter le magazine Trax, qu'il faut lire Libé,
Il faut lire Slate, Brice Miclet.
Malgré les injonctions de Slate à manger les sushis d'une certaine façon et à pas mettre de crème dans la carbonara, sur la partie musique, ils sont cool.
Et surtout d'aller checker effectivement les bouquins aussi qui sortent.
Et oui, d'ailleurs, on peut le rappeler, donc Sample aux origines du son hip-hop,
tout à fait,
que moi-même je vais aller checker très fort. Ouais. Et puis
l'histoire du rap, il y a puis celui sur Lizzie Mercier des Clous.
C'est ça. Les immersions des clous, une éclipse, ça s'appelle.
Très bien.
Parce qu'elle a été un peu éclipsée par l'histoire.
Tu veux rapidement, tu nous dis en une minute, en 30 secondes.
C'est une musicienne qui a été au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes à chaque fois, mais qu'on n'a pas trop retenu dans l'histoire, parce que peut-être parce que c'était une femme, peut-être parce que c'était une française. Et voilà, mais encore aujourd'hui, des gens comme Patti Smith, des gens comme les musiciens de Sonic Youth, etc., estiment que c'est une musicienne française majeure, mais on n'est pas toujours très au courant de ça en France.
Magnifique. Ouais. Merci évidemment aussi à la Bouclette qui
gère
la technique de cette émission. Merci Mangadaz.
Merci Salman, c'était coolos.
Merci François pour le montage.
Ouais,
à chaque fois, on t'envoie des rushs terribles et il arrive à se dépatouiller tout ça, à nous faire une belle émission.
Et puis SO à Thoman, sans qui toute cette aventure ne serait pas possible.
Thoman.
Est-ce que cette émission est un publi rédactionnel? Je ne sais pas moi-même.
Oh bah, je peux te dire que non. Parce que si on cherchait les sous, on le ferait autrement.
C'est vrai.
On va te parler de 2h15, je ne sais combien de temps. Bref, on se retrouve dans 15 jours.
Ciao la 45e.